Bonjour, bienvenue dans l'Éclectique Show. Ce mois-ci, on est un petit peu en retard. Je suis un petit peu en retard, en fait, sur l'enregistrement de l'Éclectique. Habituellement, je le fais en début de mois. Là, je suis en fin de mois. Écoutez, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, quand on est dans l'univers quand on travaille dans la business, habituellement, c'est toujours en fin d'année que tous les projets arrivent en même temps. On a beau les planifier, on a beau avoir les outils pour bien les planifier, c'est tout arrive à la fin. Alors, c'est ça. J'ai été victime du succès et on a été obligé de travailler beaucoup plus fort au début de décembre. Et là, pour vrai, je suis en vacances et depuis que je suis en vacances, je fais plein de podcasts. Mais avant tout, avant de continuer de parler de moi, je vais souligner le fait que j'ai mon invité, un invité qui, c'est la deuxième fois qu'il vient à l'Éclectique, Gontran.
Oui.
Bonjour Gontran, comment vas-tu?
Bonjour Mathieu, ça va très bien.
Ça va très bien. Écoute, Gontran, on parlait de ça avant l'émission. Gontran forme, ça prend de plus en plus forme, c'est ça que tu me disais?
Oui, ça prend forme tout doucement, tranquillement. Et je voulais dire justement, grâce à la diffusion de l'émission, j'ai rencontré quelqu'un, un auditeur qui m'a contacté, quoi, grâce au podcast.
Bon, mais ça, c'est bien, des bons retours. Ouais. C'est ça qui arrive, hein, avec le podcast, c'est qu'on attire une clientèle de qualité. Et ceux qui écoutent l'Éclectique sont de plus en plus de qualité, ont toujours été de qualité et le resteront. Des gens qui ont du goût. En introduction, ouais, je voulais faire un petit retour sur la dernière émission. Écoutez, un record de téléchargement pour la dernière émission. Vous avez aimé l'aspect un peu plus... recherche, je pense, et aussi peut-être le titre un peu plus accrocheur, peut-être plus putaclic qu'habituellement. Alors, ça a été peut-être un succès. 5000 téléchargements, c'est le record, près de 5000 téléchargements, c'est le record pour l'Éclectique. Ben, merci à vous. Aussi, retour, Gontran, t'es rendu dans l'univers du podcast, du streetcast, toi, en fait, avec J'ai fait le point.
Et oui, voilà, je me lance aussi dans un petit podcast, donc... un petit streetcast que j'enregistre souvent en voiture, comme toi, avec en mode pare-soleil.
Mais c'est fou, hein, le son est quand même excessivement
ouais, ça va,
bon.
Ouais, ça va, ouais, ça fait le job.
Pour les gens qui ne savent pas, un streetcast, c'est vraiment en mode moins formaté, un peu plus brouillon. Et puis moi, j'essayais de prendre mon micro-cravate, j'essayais de prendre toutes sortes de choses pour capter le son. Puis finalement, je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'enregistrer avec un iPhone, c'est vraiment de bloquer le téléphone dans le pare-soleil en haut, ce qui fait que le son monte et le son est très bon. Alors évidemment, vous prenez le iPhone dirigé vers vous, vous bloquez le pare-soleil et là, le son est juste parfait pour enregistrer, juste à la bonne hauteur, juste au bon réglage. Et puis, ben c'est ça, quand Gontran dit en mode pare-soleil, c'est ça qu'il veut dire. grosse émission aujourd'hui, on a trois dossiers. Le premier, c'est comment la technologie façonne nos esprits. Le deuxième, c'est, il s'est rajouté à la dernière minute, c'est comment dégoogliser, hein, des gens qui ont réussi à dégoogliser ou qui testent la façon de se dégoogliser. Et le troisième, c'est j'ai changé pour Linux et c'est encore mieux que prévu. C'est trois articles qui vont être à débat. Puis après ça, à la fin, on a un débat un peu plus geek, là, qu'on fait des classements de systèmes d'exploitation. Alors, comme dirait Guillaume, sans autre forme de procès, on va commencer avec le premier dossier maintenant. Avec le premier dossier, c'est, comme je le disais tantôt en introduction, c'est comment la technologie façonne nos esprits. C'est un article, si je clique sur le lien, que j'ai trouvé sur Medium. Je pense que je vais prêcher un convaincu. Medium, c'est vraiment cool, hein,
oui.
Gontran.
Ah oui. J'adore cette plateforme. Donc, aussi bien pour lire que pour écrire, c'est vraiment une excellente plateforme de blog.
Oui, et puis elle n'est pas encore assaillie par la publicité, alors c'est vraiment ça, moi, qui me fait... Je sais pas c'est quoi le modèle d'affaires en arrière de ça, s'ils en ont un ou s'ils en ont prévu un, mais c'est vraiment cool au niveau de la lecture, c'est vraiment chouette. Ouais, et puis tu me disais qu'on peut maintenant brancher son nom de domaine, hein, directement.
Oui, voilà,
sur...
Ouais. Quand tu as des publications sur ton compte, tu peux rediriger ton nom de domaine dessus, donc et personnaliser un tout petit peu l'apparence de ta page. Donc... C'est plus simple que de faire un blog sur WordPress, par exemple.
Ouais, ben en fait, c'est clé en main.
Exact. C'est clé en main.
Par contre, les données t'appartiennent plus, tu sais, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes choses.
C'est toujours la même question, quoi. Bon, tu peux quand même, tu peux toujours les exporter et les récupérer, hein. Mais bon.
Ouais. Alors, l'article vient d'un auteur qui s'appelle Tristan Harris, qui a fait un article sur How Technology Hijacks People Minds. En français, c'est comment la technologie façonne nos esprits. Comme je disais à Gontran au début de l'émission, moi, je suis vraiment un techno-enthousiaste et j'ai toujours l'habitude d'essayer de nouvelles choses, d'essayer toutes les plateformes. Je me fais un devoir d'essayer tous les trucs, toutes les OS pour avoir une espèce de... pour pouvoir en parler, en fait, pour pouvoir les essayer, pour avoir un recul, pour voir, pour comparer. Et puis, je me rends compte qu'avec cet article-là, il y a beaucoup de choses que je prends maintenant pour acquis. Alors, il a fait son article en le mettant sur plusieurs points, là, toutes sortes de hijack, lui, en anglais c'est hijack, qui façonne votre esprit. En français, ce serait détournement qui façonne votre esprit. Le premier détournement, je l'ai trouvé vraiment drôle. Détournement numéro 1, si vous contrôlez le menu, vous contrôlez les choix. Exemple, puis là, il fait l'analogie avec Yelp, qui propose une barre de navigation qui, au final, va sûrement vous faire manquer de belles choses. Typiquement, quand vous contrôlez un menu dans un site, quand vous contrôlez un menu dans une application, vous aiguillez les gens vers un choix que vous décidez et pas forcément les gens qui utilisent votre plateforme. Lui, il parle de Yelp qui dit, quand tu avec l'application, tu regardes le meilleur restaurant du coin, le meilleur bar du coin, mais en bout de ligne, tu vas peut-être manquer une promenade, un artiste qui chante dans un coin de rue où tu te serais promené, où tu t'es baladé. Ce qui fait que le menu ferait vraiment façonne notre esprit, puis façonne nos directions et façonne nos choix. Toi, le meilleur exemple, en fait, c'est le GPS, moi, je trouve, qui te dirige à l'endroit où tu veux, mais pas nécessairement en voyant ce que toi, t'aurais peut-être apprécié.
Oui, voilà. Ouais. Et puis même pour les restaurants, ça se trouve, le meilleur resto du coin, il n'a pas de compte sur Yelp ou Google Maps ou autre, et tu peux le louper justement parce qu'il n'est pas sur ces plateformes-là.
Tout à fait. Ça, c'est tellement clair. D'ailleurs, si vous êtes commerçant, ça coûte absolument rien de s'inscrire dans le Google Maps. Je lisais dans les derniers articles, là, c'est rendu en mobile, 70% des recherches arrivent sur Google Maps. Alors, c'est vraiment, vraiment ultra important quand vous avez un commerce local physique, là, d'être vraiment présent sur Google Maps parce que beaucoup de gens se dirigent et cherchent des choses locales par les maps. Toujours dans le détournement 1, si vous contrôlez le menu, il y a évidemment les notifications du matin. Quand on regarde son téléphone, la première affaire qu'on fait maintenant, je sais pas vous, mais en tout cas moi, c'est après, et puis des fois c'est même avant, après avoir embrassé ma conjointe pour lui souhaiter une bonne journée, je regarde mes notifications, tout ce qui s'est passé dans la nuit, et ça façonne ma journée, ça façonne déjà les choses, les schèmes de pensée, les schèmes de réponse que je veux faire dans ma journée. Avant même de déjeuner, avant même de faire quoi que ce soit, c'est un peu... Et puis c'est moi hein, qui décide ça, effectivement, les notifications. Mais en bout de ligne, ça les façonne quand même. Ne serait-ce que Facebook, ne serait-ce que... Là, dernièrement, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais il y a de plus en plus de notifications sur YouTube que j'avais pas avant, qui disent « telle vidéo pourrait vous intéresser ». Google Photos aussi, il y a de plus en plus de notifications qui disent « ah, tel moment, te rappelles-tu de telle chose ». Facebook a aussi des notifications du genre « ça fait 4 ans que vous connaissez cette personne ». Les notifications du matin façonnent vraiment votre journée, votre début de journée, et maintenant, il y a une espèce d'intelligence artificielle qui la façonne encore plus sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit dans les applications. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça, toi, Gontran?
Oui, c'est vrai que les notifications, par exemple Facebook, avant t'avais que les notifications de tes likes sur tes partages, tout ça. Maintenant t'as toutes sortes de notifications, donc ce qui fait que ça te ramène toujours vers l'application. Il faut toujours que tu y retournes parce que il faut en sorte que tu reviennes la checker 150 fois là, comme il dit dans l'article. Voilà, tu peux être vite assailli de notifications tout au long de ta journée par les différentes applications que tu utilises, quoi. Et pas forcément des notifications vraiment pertinentes, hein. C'est juste pour te faire revenir.
Oui, non, clairement. J'ai mis ça sur Twitter l'autre fois. J'ai fait une page Facebook pour Mathieu le podcasteur. Et puis à un moment donné, il m'a envoyé une notification, mais j'ai trouvé ça ahurissant, qui m'a dit « Ah, ça fait plus de 7 jours que tu n'as pas parlé à ta communauté, ça serait bien de leur écrire ou leur dire quelque chose ». C'est absolument délirant. Avant, on avait des notifications de base. Maintenant, l'espèce d'intelligence puis les algorithmes font qu'ils t'obligent à faire certaines actions. Puis typiquement, ben j'ai été voir, puis j'ai communiqué. C'est niaiseux, mais j'ai communiqué. Alors, oui, je suis soumis aux technologies. Puis à la fin de ce point-là, ce détournement-là, le premier détournement, c'est dit en façonnant les menus que nous choisissons en technologie. La technologie détourne la façon dont nous percevons nos choix et remplace par des nouveaux. C'est totalement ça. Je le sais moi-même, hein, dans le développement web, exemple, quand on fait une boutique en ligne, on façonne les menus en fonction de ce qu'on veut vendre des fois, on façonne les affichages en fonction de ce qu'on veut vendre ou vider des stocks, des choses comme ça. Au niveau commercial, on le comprend. Au niveau social des médias sociaux, c'est un petit peu plus tricky, c'est un peu plus complexe. À voir ce que ça va donner plus tard.
Oui, mais tu es le produit, oui, aussi, hein, sur les réseaux sociaux, oui, tu es le produit, comme c'est gratuit. Donc, reste un commerce, malgré tout.
Ils veulent vraiment que tu reviennes. Détournement numéro 2, mettre un tiroir de rafraîchissement, comme une machine à sous. et c'est fabuleusement vrai. Les tiroirs de rafraîchissement, c'est quand vous êtes dans des applications et que vous tirez vers le bas pour rafraîchir, pour voir si vous avez des nouvelles choses, ça crée une espèce de dépendance, puis ça maximise le taux le taux de fois où vous allez retourner dans ces choses-là. Et puis c'est un, je me rappelle pas c'était quel concept psychologique là, que tu essayes, tu joues jusqu'à temps que tu gagnes. Ben là ils se rendent compte que le tiroir ça fait revenir les gens, et puis machinalement tu rafraîchis certaines applications sans même y penser, même que des fois c'est des réflexes que t'as. Moi, je sais que je le fais beaucoup avec Twitter, je le fais beaucoup avec mes emails. Toi, est-ce qu'il y en a d'autres applications que tu rafraîchis comme ça?
Oui, Twitter principalement. Ou Instagram éventuellement, ouais. Mais c'est difficile de se retenir de faire ça, parce que des fois, par exemple, sur ton fil Twitter ou Facebook, bah, il suffit de continuer à dérouler tes fils, mais il te met un petit pop-up pour dire ah, il y a des nouveaux tweets ou des nouvelles publications sur Facebook, reviens en haut, rafraîchis pour avoir toujours les dernières bêtises à lire
qui dans les faits sont vraiment pas importantes, parce
pas
que
toujours, non.
Le troisième détournement, c'est le FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Eux autres, ils l'ont dit, le FOMSI, le fear of missing something important. En fait, là-dedans, l'auteur, il dit qu'on est toujours dans sur nos tablettes ou sur nos téléphones, tout ça pour... Alors d'abord, on aime ça rafraîchir dans le détournement numéro 1, parce que on a envie. Pourquoi on aime ça rafraîchir? Parce qu'on a envie d'avoir une espèce de gratification. Puis la gratification, c'est quoi? C'est de l'information. Gontran, tu dis des choses stupides des fois, parfois, même souvent. Puis là, c'est aussi en lien avec la peur de manquer quelque chose. Mais comme dit l'auteur, nous ne manquons pas ce que nous ne voyons pas, en fait. Fait que dans le fond, si on le fermait, on manquerait rien. Ça se déroulerait, puis on le verrait après. Il dit aussi, ça, c'est une sorte d'anxiété sociale qui est caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir. Ben c'est ça, c'est parce qu'on veut, on veut interagir avec les gens. En marketing, ça se traduit souvent aussi dans le sentiment d'urgence de aller tout de suite. Exemple, le meilleur exemple, c'est le Black Friday. Allez-y tout de suite, une offre temporaire, c'est à court terme. Ça stimule notre sentiment de crainte, de manquer quelque chose, de pas être dans la vie, dans la société. Ça, c'est un nouveau détournement technologique qui est assez hallucinant, et je m'en étais pas rendu compte avant de lire l'article. Est-ce que toi, tu es drogué au même point que moi pour les nouvelles ou pour les Twitter?
Oui, malheureusement. j'essaye de le combattre aussi depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est difficile. Et tu le remarques, par exemple, quand t'as pas de connexion Internet pendant quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, tu ressens ce sentiment de FOMO, de manquer quelque chose. Tu te dis, ça se trouve, il se passe quelque chose, ou... Et quand tu reviens sur ton téléphone ou ton ordinateur, bah tout de suite tu vas rechecker ton Facebook, ton Twitter, etc. et tu vas tout faire défiler pendant des heures pour voir si t'as pas manqué la blague ou l'information importante de cette période où t'as pas eu de connexion. Donc c'est vrai que c'est un sentiment qui est plus en plus répandu en fait, mais on s'en rend pas forcément compte.
Non, puis d'ailleurs j'en ai parlé dans Real Life, là les fêtes approchent, vous allez être en famille, le soir de Noël, le soir du jour de l'an, réveillon et ainsi de suite, fermez votre téléphone ou mettez-les sous mode avion si votre téléphone c'est votre appareil photo. Vous ne risquez pas de manquer grand-chose parce que toutes les personnes que vous aimez sont généralement autour de vous ces soirées-là, alors fermez vos téléphones et surtout le jour de l'an, je vous ai mis des recettes dans Real Life pour pouvoir souhaiter bonne année automatiquement sans vous soyez directement sur votre téléphone. Allez-y, vous allez rien manquer, vous êtes avec vos proches, l'important, l'essentiel est en face de vous.
Oui.
Détournement numéro 4, l'approbation sociale. C'est important pour les humains et encore plus important sur certaines strates de la société, les adolescents, les femmes, j'ai mis les femmes entre parenthèses, excusez, là, c'est vraiment cliché, mais certaines strates de la société, les adolescents, c'est... très très important la société parce qu'ils se comparent, c'est une approbation entre ses pairs pour voir ce que les autres font et puis typiquement quand tu mets une nouvelle photo, tu mets une nouvelle actualité sur Instagram ou sur Twitter, ben tu veux voir si tes amis l'ont vu, tu veux voir s'ils ont mis des likes, tu veux voir s'ils ont mis des cœurs et puis t'aimes ça, tu fais partie d'un groupe et puis t'aimes ça. Alors Facebook, ça se traduit facilement pour l'approbation sociale que quand vous changez votre photo de profil, ben il la met directement dans votre flux d'actualité, ce qui fait que et puis en plus il a fait remonter dans les flux des autres pour que t'aies des likes. Alors évidemment quand t'as des likes sur ta photo, t'es content, tu retournes, t'aimes aller sur Facebook et puis là vous voyez le cercle se continue. La réciprocité sociale qui est un petit peu identique, c'est que on aime ça avoir des likes, on aime ça faire partie d'un groupe, mais on aime ça aussi quand je te like, tu me likes. Alors on s'attend à des choses en retour quand on est dans les médias sociaux et puis ils ont très très bien arboré ça au niveau, ben exemple Facebook, même Twitter maintenant avec les cœurs, vous pouvez avoir la réciprocité sociale et puis vous l'utilisez encore plus. C'est un autre détournement de certains très psychologique chez l'humain.
Ouais, j'ai remarqué ça aussi sur Instagram. Dans le flux, il te propose de temps en temps de suivre des personnes. Et par exemple, il y a, je regarde en direct, il y a machin. Vous êtes amis sur Facebook, suivez-le, etc. Tu vois. Donc, on cherche aussi à connecter différentes comptes comme ça, même sur Facebook. Hein, il te propose des amis. Moi, j'ai remarqué ça sur Facebook dans les propositions d'amis qui apparaissent dans ton flux. Une fois, j'ai eu une proposition d'ami d'une personne que je connaissais pas, mais que j'ai croisée physiquement.
Et comment ils ont fait pour savoir ?
Ben, en fait, j'ai à l'occasion, peu importe, d'une rencontre, je pense qu'on devait peut-être avoir tous les deux l'application Facebook ouverte en même temps ou je ne sais quoi. Et quelques temps après, ben, je l'ai vu apparaître dans mes suggestions d'amis. Alors qu'on a peut-être qu'il y a une ou deux personnes en commun et encore, je sais même pas. Tu vois, donc ça se trouve, il y a aussi une question de localisation, en fait, pour les suggestions d'amis.
Ça fait peur.
Ouais.
Ça fait peur. Oh, ça, j'avais pas remarqué ça. J'avais remarqué que les applications du genre Instagram, Facebook, tout ça, prennent ton carnet de contact pour te suggérer des gens. Mmh. Ça, c'est clair. Mais là, t'es en train de dire qu'il y aurait une découverte de qui tu fréquentes en fonction de ta géolocalisation. Wow.
Oui, voilà.
Ou peut-être que tu publies en même temps au même endroit quelque chose et puis vu que t'as été tagué, ils pensent te le présenter.
Je sais pas exactement l'origine de ça, mais bon, ça a creusé quand même. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez eu ce genre de proposition d'amis.
Ça donne des frissons dans le dos, sérieusement, ce que tu viens de dire. le sixième détournement que je trouvais intéressant à vous rapporter, là, c'est tu consommes plus parce que t'en as plus, tout simplement. Oui. C'est le professeur Carnell Bryan qui a découvert ça avec... j'en avais parlé dans Nip Live, d'ailleurs. Plus t'as quelque chose dans ton assiette, plus tu vas en consommer. Il avait créé des bols de soupe sans fin qui remplissaient au fur et à mesure, puis les gens, ils mangeaient de la soupe, puis plus ils n'avaient, plus ils mangeaient. Tant qu'ils voyaient pas la faim, ils continuaient à manger. Et puis, Ils s'étaient rendu compte que les gens qui avaient un bol de soupe sans fin versus ceux qui en avaient pas atteignaient la satiété vraiment beaucoup plus tardivement et avaient tendance à manger 73% plus de calories. Ben, au niveau tech, ils l'ont découvert aussi, et puis ils l'ont découvert récemment avec l'autoplay de YouTube, l'autoplay de Facebook, l'autoplay de Twitter. C'est que directement, ils démarrent les vidéos, et plus ils démarrent les vidéos, ben, plus t'as tendance à les regarder. Exemple, YouTube, tu finis une vidéo, il t'en démarre une autre. Netflix, c'est la même chose, il t'en démarre une autre. Ça pose d'autres sortes de problèmes pour ceux qui ont des forfaits limités en data et ainsi de suite, et puis que vous oubliez votre téléphone ou votre ordinateur allumé, ben, ça va continuer à boucler sans fin. Mais le même principe que la soupe, plus tu en as, plus tu vas en consommer. Et puis eux autres, ben, l'idée, c'est de rester sur leur plateforme pour vendre la pub, hein, ultimement, pour avoir plus de données sur vous, pour pouvoir plus vous cibler. Puis en résumé de l'article, puis vous irez voir l'article, il y a d'autres détournements, d'autres hijacks plus que ça, là. En résumé, je disais, le temps est précieux et nous devons le protéger avec la même rigueur que la vie privée et notre droit numérique. En ce moment, j'estime que j'atteins mon adolescence technologique où j'étais enfant, j'étais content, il y a plein de choses. Et là, certaines choses commencent à me frapper. Ouais, je prends conscience de certains trucs, et puis ben on va en parler un petit peu dans le deuxième dossier. Faites attention à ce que vous partagez, faites attention au temps que vous passez. Vous êtes en train peut-être de perdre votre identité dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de perdre du temps. Faites vraiment attention sous des aspects ludiques et intéressants. Des fois, ben ça peut. Les gains sont peut-être pas là forcément par rapport au temps que vous passez.
Sur l'autoplay, alors sur Facebook et Twitter, je sais pas, mais sur YouTube, tu peux désactiver l'autoplay hein, des vidéos suivantes. Hein.
Moi, c'est ce que j'ai sur l'Apple TV aussi.
À Apple TV, je sais pas. À vérifier.
Parce que moi, ça continue en loop, comme Netflix.
Peut-être dans les paramètres, tu peux le désactiver. Mais je sais que dans les applications et sur le site, tu peux désactiver.
Mais par défaut, ils y sont.
Et oui, voilà, ouais. l'exemple que tu disais avec les bols sans fond, ça m'a fait penser aussi dans le fait qu'il faut pas manger quand tu regardes la télé, parce qu'en fait quand tu regardes la télé et que tu manges, tu te rends pas compte, tu manges beaucoup plus en fait, parce que t'es absorbé dans autre chose, et puis pareil, tu peux manger sans faim, donc fais bien attention d'éviter de manger devant la télé.
Si vous voulez vraiment faire attention à votre poids, évitez évidemment de manger devant la télé, évitez les grosses assiettes, prenez des petites assiettes. Puis un autre truc super intéressant, manger devant un miroir. Parce que quand vous vous regardez en train de manger, des fois, ça vous dégoûte et vous mangez peut-être moins. Alors, c'était le premier dossier que je voulais vous partager, en fait, l'article que je voulais vous partager sur comment la technologie façonne nos esprits. Et maintenant, on s'en va au dossier numéro 2. Alors le dossier numéro 2, on l'a fait vraiment, comme je dis souvent, sur la gueule, dernière minute. C'est Gontran qui est arrivé avec un article super intéressant et ben évidemment ça a fait du pouce sur d'autres trucs que j'ai trouvé dernièrement. Alors le premier article dont on va parler, c'est « Promis, je me dégooglise ». C'était quoi cet article-là, Gontran?
Alors c'est une série d'articles. Alors l'auteur, il s'appelle Adrien Bibard, qui a fait trois articles sur Medium pour expliquer qu'il essaye de quitter Google et tous ses environnements, toutes ses applications. Donc il passe en revue tous les outils qu'il utilise et qu'il utilise maintenant à la place de Google. Donc ça c'est alors par exemple bon il disait dans les basiques pour les mails il utilise Mozilla Thunderbird, Firefox pour le navigateur internet, après tout ce qui est traitement de texte il est passé à LibreOffice, bon ça on en reparlera après, VLC comme lecteur vidéo etc. Donc il propose quelques solutions alternatives aux solutions de Google.
Est-ce qu'il a pris du recul par rapport à ça? Est-ce qu'il y a moins de publicité personnalisée? Est-ce qu'il y a moins de dans l'article?
Ça je sais pas, je m'en rappelle pas parce que je l'ai eu il y a un moment, donc je sais plus, je crois qu'il a fait un petit point à la fin, donc je sais plus.
Bon.
À vérifier. Bah, je vous invite à lire comme ça, au moins, vous donnerez votre avis.
Ça fait du lien sur ce que Framasoft a fait comme comment on pourrait dire ça, c'est pas une suite logicielle, c'est comme mouvement ce qu'ils ont voulu apporter au niveau d'Internet, c'était de dégoogliser Internet et ils ont offert des alternatives. C'est beau de dire on dégooglise Internet, on l'utilise moins et ainsi de suite, mais ils ont offert beaucoup d'alternatives. Alors évidemment, pour le calendrier, ils ont Framadate, pour écrire un document collaboratif, ils ont Framapad. Tout ça basé sur des solutions open source qui sont libres, mais eux autres ils l'ont hébergé sur leur site. Il y a Framacarte pour les cartes, Framadrive pour les fichiers. Ils ont une espèce d'outils d'utilitaires pour transférer des fichiers comme à l'alternative de WeTransfer qui s'appelle Framadate, des outils en ligne pour les enfin vous voyez un peu l'idée là, à la place de Google quelque chose c'est du Frama quelque chose, c'est open source, c'est hébergé pas sur Google, vos données tout ça ils les stockent pas de manière à les utiliser après pour faire vendre la pub et ainsi de suite, et c'est leur troisième année et ils ont publié leurs statistiques et leurs chiffres sur plusieurs personnes sondées et c'est ma foi quand même assez intéressant le nombre de personnes qui ont été utiliser ces logiciels là. Il y a quand même une prise de conscience je pense dans certaines strates des geeks par rapport à l'utilisation de Google. Bon, Guillaume en a parlé une fois dans son streetcast là, par rapport au fait que Google c'est dangereux et ainsi de suite, alors qu'il faut mettre des choses en perspective. Google c'est pas ouvert à tous, il y a un mot de passe, il y a ci, il y a ça, ça c'est clair, mais toutefois il y a certains aspects de Google qui sont à faire attention. Tu sais, je faisais le parallèle hier sur Yahoo qui va très très mal en ce moment, qui a perdu 1 milliard de comptes, tout ça. Si un jour ça arrivait à Google, si vous avez toutes mis vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire chez Google vos informations, vous aurez que vos yeux pour pleurer parce que ils ont avec Wallet vos cartes de crédit, avec Gmail tous vos liens, avec Google Plus ils ont tous vos liens sociaux, avec Google Doc ils ont tous les documents que vous faites. Finalement votre vie numérique complète et chez Google et faudrait faire attention par rapport à ça. Alors je vous invite à aller voir Framasoft avec leurs outils. Aussi pour faire du lien sur le cloud personnel en fait. Là on parlait de Framablock qui offre un cloud open source mais décentralisé qui n'est pas chez vous. Cozy, c'est un regroupement français même, offre du cloud personnel. En fait, qu'est-ce que c'est Cozy? C'est l'équivalent de Google Doc, en fait de la suite Google, qui vous permet de lire vos courriels, qui vous permet de stocker vos carnets de contacts, vos photos et ainsi de suite, et permet de tout faire ça à partir d'un serveur web chez vous. Alors, quand vous allez chez Cozy, si vous êtes un peu techno et vous savez configurer un serveur, ça va bien aller parce que vous avez toute l'application la suite pour installer sur un serveur vous-même. Si vous n'êtes pas très techno au niveau des serveurs comme moi, ils offrent des façons de faire pour l'héberger ailleurs. Alors typiquement, moi, il y avait une recette pour l'héberger chez OVH. Et puis, ça s'est vraiment bien fait. J'ai suivi la recette. Ça a été 3 grosses étapes. Ça a été très, très simple. Je l'ai testé pendant 1 mois. Ça m'a coûté 5,50, à peu près $5,50 canadiens. Et ça m'a permis de tester Cozy. Alors, ça m'a permis de tester Cozy pour 2-3 aspects. J'ai regardé pour les courriels. Alors, évidemment, ça va bien, mais il y a pas toutes les fonctionnalités de Gmail, mais au moins c'est hébergé sur vos affaires à vous. Ça va bien pour l'hébergement de fichiers, le partage de calendrier, la prise de notes. Mais c'est toujours la même affaire dans ces choses-là. Si tout le monde était chez Cozy, la vie serait belle. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas chez Cozy. Tout le monde n'a pas un serveur Cozy. Alors, c'est un peu plus complexe. Je vous dirais que vous pouvez peut-être utiliser ou penser à utiliser ça si vous avez une petite entreprise et que vous voulez avoir un espèce de Google Apps, mais que vous n'avez pas les moyens ou que vous ne voulez pas que toutes vos données soient transmises là. Dans l'exemple de Guillaume par rapport à son streetcast, quand il dit peut-être une start-up qui veut fonder des affaires ultra secrètes, ben peut-être prendre un Cozy, l'héberger chez vous, sur vos serveurs en sécurité. Vous allez avoir des fonctionnalités de partage et de télétravail, en fait, mais sans forcément ouvrir ça à tout le monde. C'est vraiment intéressant. C'est en français. C'est en plusieurs langues, en fait, mais il y a la version française sans aucun problème. C'est assez performant. Vous pouvez même installer Cozy sur un Raspberry Pi. C'est juste pour vous dire à quel point ça prend pas beaucoup de ressources. Alors, si vous êtes une petite entreprise, un petit Raspberry Pi à $50, vous branchez ça dans le réseau interne, vous installez Cozy et après ça, vous avez votre suite logicielle légère pour l'entreprise. Est-ce que c'est le genre de choses qui t'intéresseraient, toi, étant donné que tu es un auto-entrepreneur, Gontran?
Oui, Cozy, je connaissais pas. Je vais regarder ouais, si c'est intéressant. Il y a aussi il y a Zoho, Zoho, qui propose toute une sorte, toute une suite logicielle équivalent à Google Suite et Office 365. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne font pas confiance entre guillemets à Google ou autre ou à Microsoft. Donc Cozy, ouais, ça peut être une alternative aussi. Moi, ce que j'ai peur avec ce genre de système, c'est que c'est sur la durabilité. Enfin, c'est le suivi dans le temps, quoi. Est-ce que dans 5 ans, ils seront encore là? Bon, après Google, je pense qu'ils seront quand même là encore dans 5 ans. Mais après, qu'on a vu avec les exemples de MySpace ou même Yahoo, maintenant, on n'est pas à l'abri qu'un service ou qu'un ferme d'ici quelques années. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à faire confiance à des gros groupes comme Google, Microsoft, plutôt que ce genre de site. Donc,
Mais à ça, je te répondrai que Cozy, s'il t'appartient,
oui,
ça veut dire que c'est pas quelque chose d'héberger à l'externe. S'il venait à pu être supporté du jour au lendemain, Cozy ferme pas. Cozy, tu l'as installé sur ton ordinateur, puis il va fonctionner très bien.
T'as aussi macOS Server, si tu peux faire aussi ce genre de...
Ah, tu vois, c'est la partie serveur de Mac, c'est quelque chose que j'ai jamais exploré. Toi, tu connais ça un peu?
Non, pas trop. Hein. Honnêtement, je connais pas très bien, mais je sais qu'on peut, pareil, configurer, partager les calendriers, les mails, etc. Donc, en local. Donc, ça aussi, c'est une alternative intéressante. Pour ceux qui sont pas allergiques.
Toujours... non, c'est clair. Ben, est-ce que quand t'as la suite Mac, ça prend en fait les serveurs de Mac, ça prend absolument des MacBooks puis tout ça pour se connecter après? J'imagine que non. J'espère que non, en fait. En tout cas, vous nous répondrez dans les notes d'émission, mais allez, vous nous répondrez dans les notes d'émission. Point. je voulais faire aussi un retour sur une petite rage que j'ai eue dernièrement. En fait, la première, c'est sur Google Doc, toujours dans la catégorie dégooglisé, là. Je me suis aperçu que Google Doc, vous pouvez télécharger, si vous installez l'application Drive sur votre ordinateur, automatiquement, ça va télécharger tous vos Google Docs. Ça va donner exemple, le nom de votre fichier .gdoc, le nom de votre fichier .gsheet, et ainsi de suite. Ça donne des extensions Google. Alors, je pensais que ces fichiers-là étaient la version, en fait, je pensais que tous ces fichiers-là étaient la version, du document, mais ça n'est pas du tout ça. En fait, je m'en suis aperçu parce que j'ai pris un Google Sheet, le fichier physique, je l'ai transféré dans un autre drive, et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai essayé d'ouvrir, que je ne pouvais pas, fallait que je demande l'autorisation d'ouvrir à quelqu'un d'autre.
Non, c'est
le parallèle que je voulais
un lien
faire.
Vers un fichier. Hein. Enfin, c'est juste un
ouais,
lien web.
Exactement. Donc, exactement. Fait que à part faire option fichier exporter, vous avez jamais le fichier chez vous. C'est juste un lien vers le fichier, comme tu dis, Gontran. Et le problème que j'ai par rapport à ça, c'est que les données sont toujours chez Google. Et même plus fort que ça, c'est que si vous voulez les partager, Google va savoir à qui vous le partagez et le lien. Va faire un lien direct à qui vous le partagez. Alors que si vous utilisez la suite 365, vous prenez un document, vous le partagez à quelqu'un d'autre, à un Word, à un Doc, ainsi de suite. Et puis, Microsoft est pas au courant à qui vous l'avez partagé, là. Alors, c'est une affaire qui me freine d'utilisation de Google Doc, non. C'est juste que ça me fait réfléchir par rapport à certains fichiers, certains types de fichiers que je mettrais peut-être pas forcément maintenant chez Google Doc. Ça me fait réaliser qu'il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier, surtout au niveau technologie. Comme tu disais, Gontran, des fois, du jour au lendemain, une compagnie peut fermer et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Exemple, Pebble, dernièrement, j'étais tellement estomaqué. Fitbit rachète Pebble, du jour au lendemain, c'est presque fermé. En fait, ils vont extensionner une année, je pense,
oui, j'ai vu ça,
de support. Oui. Mais ça va se terminer après. C'est drastique, hein, ces affaires-là, des fois. Quand c'est pas open source, on peut pas la reprendre.
Ouais. Après, sur Google, t'as Google Takeout qui te permet de télécharger tous tes fichiers Google, enfin que ce soit d'archiver tous tes agendas, Google Chrome, tes emails, etc., ton Google Drive. Et par exemple, Google Drive, ça te permet de télécharger tous tes documents au format Word, Open Document, etc. Tu peux choisir le type de fichier.
Ah, tu peux toutes les exporter en...
Ouais.
Oh
ouais.
Ah, ça, c'est super. Je vais le noter. Peut-être mettre le lien de Google Tech Art en dessous, ouais, là, parce que dans le fond, ça contredit un peu ce que je disais, là. Cool. Vraiment cool. Google Tech Art. OK. Deuxième point aussi, je voulais dire, j'ai une grosse crise de rage hier, par rapport à Google Photos aussi. J'ai voulu supprimer certaines photos de mon album Google Photos. En fait, j'en avais plusieurs dizaines de milliers chez Google Photos et il y en avait une certaine strate que je voulais supprimer. Et puis, je me suis rendu compte de deux trucs. C'est que j'avais pas défait la géolocalisation sur les photos. Hein, vous savez, quand vous prenez des photos, bien souvent, les nouveaux appareils... Les appareils photo maintenant qui ont des GPS directement d'incrustés dedans, d'installer dans les appareils photo ou même vos téléphones, mettre la géolocalisation de vos photos. Ce qui fait que c'est cool parce que sur une map, vous pouvez voir où vous avez pris vos photos. Ce qui est moins cool, c'est que Google est au courant de tous vos faits et gestes et où vous avez voyagé, quelle année, et ainsi de suite. Au même titre que chez Facebook, hein, quand vous publiez une photo, il sait exactement où vous étiez. Tantôt, Gontran nous disait qu'il y avait il s'était fait proposer un lien d'amitié avec une personne qui ne connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam et puis qui avait seulement croisé dans un événement. C'est peut-être aussi comme ça qu'il a réussi. Fait que bref, j'ai essayé de supprimer quelques milliers de photos sur Google Photos et quelle ne fut pas ma surprise qu'il n'y a aucun bouton de suppression massif de Google Photos. Le seul moyen et unique moyen de les supprimer, c'est de passer par l'application. Et puis, tenez-vous bien, j'ai essayé sur mon iPhone de les supprimer. Il m'a dit qu'il les avait supprimés, mais aux surprises, quelques heures après, c'était toujours pas supprimé de la version web. Alors, j'étais sur photo.google.com et il a fallu que je les supprime tous à la main. Le problème de ça, c'est que il te permet d'en supprimer 1500 par fois, 1500 photos de la fois. Alors c'est long et fastidieux. Et pour toutes les sélectionner, il faut quasiment toutes les cliquer une par une. Il y a des petits hacks que vous pouvez faire parce que j'étais pas le seul sur internet, j'en ai trouvé que vous sélectionnez la première photo, vous sélectionnez la troisième, puis après ça vous descendez l'ascenseur avec soit la roulette de la souris ou soit en cliquant pas sur l'ascenseur mais en cliquant sur la barre vide pour faire descendre. Et puis là ça vous permet de les sélectionner plus, mais c'est vraiment vraiment ultra pénible. Je sais pas pourquoi Google a fait au niveau commercial, je comprends là de pas retirer les photos des gens, que les gens restent pris dans Google Photos, je comprends là, mais je trouve ça vraiment ahurissant de pas pouvoir supprimer complètement un service de chez Google. Et puis ça m'a en bout de ligne, je suis parti complètement sur Google Photos. J'ai passé 2 heures à supprimer mes photos, mais j'ai vraiment tout quitté de Google Photos et je n'ai plus rien là-dedans. Alors, pour ceux qui me suivaient, que j'encensais beaucoup ce service-là, maintenant, je suis peut-être un petit peu plus modéré.
Alors, elles sont où tes photos maintenant?
Alors, mes photos sont sur mon MyCloud. J'ai un serveur que je branche à la maison et qui est accessible par Internet de par mon réseau, un petit serveur personnel. Et j'ai mes sauvegardes temporaires, je les fais sur iCloud. Alors, je m'explique. De la minute que je prends une photo, automatiquement, elle va se sauvegarder sur iCloud. Dès que j'atteins, je sais pas, moi, 3 mois, 4 mois, je les supprime toutes de iCloud. Et puis là, je fais mes doubles copies chez nous à la maison. Et puis, j'en ai toujours une copie géolocalisée ailleurs, chez mes parents, typiquement. Ce qui fait que si ma maison brûlait, je les retrouverais chez mes parents. Fait qu'au niveau du cloud, mes photos disparaissent assez vite. Je me sers de iCloud pour une sauvegarde temporaire.
Et si vous voulez en savoir plus sur MyCloud, écoutez l'épisode 4 de ReLife.
Oui, ouais, j'en ai pas mal parlé. On devait pas en parler beaucoup, mais on en a parlé pas mal. Ce qui met un terme sur ma crise contre Google ces temps-ci, et on va passer au dossier numéro 3. Dossier numéro 3, c'est encore là un article sur lequel je me suis inspiré de Dan Gilmore. Le titre en anglais, je l'ai pas. Si je clique dessus, je devrais l'avoir. I moved to Linux and I it's even better than I expect. Alors, excusez mon anglais de merde. J'essaie de faire vite. La traduction libre serait j'ai changé pour Linux et c'est encore mieux que prévu. Alors, c'est un auteur, un journaliste tech assez assez connu aux États-Unis qui a fait un changement sur Linux, et il explique sa démarche sur un article qui date quand même de 2012. Hein. Moi, je me réveille maintenant, là, mais c'est un article quand même assez vieux. Je dis 2012, c'est-tu 2012? Attends un petit peu. Non, de janvier de cette année, excusez. L'article a à peu près un an maintenant. Alors, j'ai pris certaines parties que l'auteur a parlé, puis j'ai fait un parallèle avec mon Switch, parce que pour ceux qui me suivent, j'ai switché sur Linux, et j'en suis fort content. Alors, la traduction a été faite, la traduction libre a été faite sur le site de Framablog, encore une fois, et beaucoup de gens ont participé à la traduction. Vous verrez dans les notes de ce blog en bas, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont offert leur aide. Alors, l'auteur commence par une réflexion sur l'écosystème. En fait, une des premières réflexions qu'il y a eu, c'est sur l'écosystème des App Store, des systèmes d'exploitation qui nous bloquent dans des boutiques en ligne. Puis là, il fait référence notamment à iOS, qui, sur un iPhone, on peut pas installer une application qui vient d'ailleurs. Même sur Android, c'est un peu plus on peut le faire, mais c'est un peu plus complexe. Et puis, évidemment, c'est à nos risques et périls, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de virus qui circulent autant sur iOS que sur Android quand vous utilisez pas les App Store. Oui. Fait que d'un côté, ça protège les gens. Une certaine protection d'utilisation de leur appareil, mais d'un autre côté, ben, ça les enferme dans un écosystème. Et encore là, ben Apple, Android, Google, tout ça sont complètement au courant de ce que vous installez. Et puis en plus de ça, ben ça bloque les éditeurs, en fait, les créateurs de logiciels à être obligés de donner un certain pourcentage de leur création. Typiquement chez iOS, sur l'App Store, c'est 30%. Oui. Et puis ben il commence avec cette réflexion là. Toi, est-ce que c'est des choses qui te dérangent dans l'utilisation de ton mobile, d'être obligé de toujours passer là?
Honnêtement, non. Mais non. Je comprends la réflexion autour de ça, parce que c'est vrai qu'on est obligé de passer par un App Store, mais bon, c'est vrai que t'as l'aspect sécurisé. Enfin, en théorie, c'est censé être assez sécurisé quand, une fois que l'application est sur l'App Store. Non, ça me dérange pas de passer par là, mais je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus, quoi, parce que je comprends très bien les arguments du libre à ce niveau-là. Ouais.
Et puis en même temps, beaucoup de créateurs de logiciels te le diront, depuis qu'il y a les stores, ça a fait une certaine promotion de leur application, et puis ils avaient pas la visibilité qu'ils avaient avant. Fait que
ça aussi, c'est des avantages, mais bon.
C'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais. Non, ça c'est absolument clair. Il fait une référence aussi à Windows 10, qui ressemble de plus en plus à un espion logiciel. Hein. On le sait, avec Windows 10, il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont sauvegardées chez Microsoft. Typiquement, vos mots de passe de Wi-Fi. L'idée en arrière de ça, c'est d'améliorer votre expérience avec Windows 10. C'est ce que dit la compagnie. Mais encore une fois, je vous mets en garde. C'est quand même des données qui sont personnelles, qui sont envoyées sur le cloud et qui sont envoyées chez Microsoft. Alors, vous en remettez totalement à la façon dont la compagnie gère les données. Vous savez pas si elle les gère bien. Vous savez pas si elles sont bien sécurisées. Vous savez pas si elle a les bonnes clés d'encryption et ainsi de suite. Alors, il fait référence à Windows 10. Moi, je vous dirais que Windows 10, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il va bien. Mais c'est vrai que mon départ pour Linux, ça a été une des raisons, ça a été ça quand même chez Windows 10. Il parle aussi de Chrome OS, qui lui est totalement sous l'emprise de Google. C'est que dans le fond, tout ce que vous faites sur Chrome OS est sauvegardé dans le cloud. C'est l'idée. Alors en contrepartie, vous avez un système d'exploitation toujours à jour, très stable, qui va bien, mais en même temps, vous devez tout laisser à Google les yeux fermés. Encore là, c'est comme à Microsoft, les yeux fermés, sans vraiment savoir comment il les gère et les stocke.
Après, sur Chrome OS, tu peux aussi démarrer une session en mode invité, donc t'es pas obligé. Un peu comme le mode navigation privée sur Chrome, tu peux aussi sur Chrome OS utiliser que la version navigation privée. Donc ne pas enregistrer tes mots de passe, tes données dessus. Donc
absolument, mais tu perds
ah, tu perds beaucoup
l'usage, l'avantage de Chrome OS. Ouais. En même temps, si vous voulez faire ça et que vous êtes vraiment très très affolé par la sécurité, tout ça, je vous réfère à une suite que je pense Snowden utilise s'appelle Tail, T-A-I-L-S. C'est une suite que vous installez sur une clé USB et à chaque fois que vous allez devant un ordinateur, vous partez cette suite-là, ça démarre une version ultra sécurisée de Linux et puis vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire là-dessus et ça ne sauvegarde rien sur la machine et ça n'envoie rien dans le cloud. Alors, il parle de Chrome OS et puis, ben lui, sa réflexion par rapport à tout ça, c'est que finalement, il reste que Linux, ça semble être le dernier refuge pour ceux qui sont un peu contre tous ces aspects-là de l'informatique. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai basculé vers Linux dernièrement. Typiquement, l'ergonomie de macOS me pue au nez. Surtout, notamment, la gestion des fenêtres qui est vraiment insupportable chez Mac, pour moi. Alors, peut-être que j'ai des travers qui ont été développés et des habitudes de chez Windows au niveau des fenêtres. C'est sûr que c'est ça, mais ça me pue au nez. Fait qu'au niveau des usages, c'est pas tout le temps si simple qu'on pense, là, Mac, là. Et dès qu'on a la réponse, ben, on dit, ah, mon Dieu, j'étais tellement stupide de pas l'avoir trouvé. On se sent stupide avec Mac. Mais pourtant, c'est pas si simple que ça. Moi, pourquoi j'ai quitté Windows personnellement, c'est que les mises à jour sont tellement catastrophiques. Il y a tout le temps des mises à jour. Si moindrement vous utilisez pas votre ordinateur quelques jours, là, vous êtes pris au démarrage avec un démarrage plus long, une fermeture obligée, vous êtes pris avec une performance dégradée parce que les mises à jour vont se faire en background, surtout si vous avez pas un ordinateur très très performant. Windows 10, j'adore l'interface, je trouve que c'est la plus belle, mais au niveau des mises à jour, je sais qu'on peut configurer ça aussi en arrière, mais moi j'aime avoir un système d'exploitation mis à jour constamment, et comment il le fait Windows 10, c'est vraiment très très chiant.
Ah oui. Parce que moi j'ai un PC sous Windows 10 et il y a juste Google Chrome et Steam d'installer dessus, et il y a quelques jours je l'ai allumé, ça faisait une ou deux semaines je l'ai pas allumé. Il a mis, je crois, au moins une demi-heure à démarrer. C'était affreux, quoi.
Incroyable.
Ouais, ça donne pas envie de l'utiliser.
Non. puis, ben, évidemment, personnellement, Chrome OS, c'est très bien. Ça fait le travail, mais comme je vous dis, ma réflexion par rapport aux outils de Google, j'ai une espèce d'amour-haine avec les produits Google en ce moment, et ben Chrome OS je suis bien, puis ben j'ai des usages experts un peu, et pour ça c'est un peu limité, notamment quand on veut commencer à faire des podcasts avec des micros, des ci, des ça, des mixeurs, c'est quand même assez limité. Alors pour moi, mon usage Chrome OS c'était peut-être pas viable pour moi.
C'est bien pour le grand public entre guillemets, quoi, Chrome OS, parce que c'est vraiment très simple d'utilisation. C'est un navigateur web et c'est ce que la plupart des gens utilisent maintenant. Enfin, ils vont sur Facebook, regarder leur mail, sur Gmail, etc. Donc ça peut suffire à la plupart des usages, en fait, Chrome OS, quoi. Si on n'est pas anti-Google, quoi, bien sûr. Si on accepte.
Non. Clairement, c'est un très bon système. Il roule sur des machines relativement bas de gamme et il roule excessivement bien. Non, c'est un très très bon système d'exploitation. En arrière de ça, c'est clair et net. Et puis si la notion de vos données vous importe pas trop, bon ben allez-y, là. C'est clair. Je reviens un peu à l'article où, à un moment donné, dans l'article, il parle au niveau des droits d'auteur, qui dit que les droits d'auteur sont de plus en plus restrictifs et mènent à des lois de coercitives ridicules. Voir certaines pièces matérielles maintenant, on n'a même pas le droit de les modifier. Et pourtant, on les a achetées. Bah, typiquement, quand vous ouvrez il y a certaines pièces que vous pouvez pas faire ou certaines choses que vous pouvez pas faire sur un iPhone malgré que vous l'avez acheté. Si vous voulez faire un jailbreak, vous perdez la garantie. C'est-tu encore vrai, ça, Gontran?
Oui, je crois que c'est toujours d'actualité, ça. Peut-être pas aux États-Unis, je sais. Tu me mets le doute maintenant.
Il y a, en tout cas, il fut une époque où vous jailbreakez votre machine. Jailbreaker, c'est quoi? C'est la pirater pour pouvoir faire plus de choses avec ou pour pouvoir avoir plus de contrôle sur la machine. Et là, automatiquement, vous perdiez la garantie. C'est pareil pour un Chrome OS. Là, typiquement, si vous achetez un Chromebook et que vous voulez installer un autre système d'exploitation, vous pouvez pas. Le seul moyen dans certains Chromebooks, c'est de l'ouvrir, de dévisser une vis à quelque part sur la carte mère, de le rebooter, et là, vous avez accès accès. Alors il y a des blocages physiques maintenant et puis qui mènent à moins de support, qui mènent à moins de trucs parce que ils mettent des restrictions sur les appareils, puis ils mettent il y a aussi des droits d'auteur par rapport à certains trucs qui fait que ben même si tu l'as acheté, tu peux pas l'utiliser comme tu voudrais. Encore là, il dit c'est là que Linux entre en scène. Même si nous nous servons davantage de nos appareils mobiles, des centaines de millions d'entre nous travaillent encore beaucoup avec leurs ordinateurs de bureau. Linux et les autres logiciels développés par la communauté ne représentent peut-être qu'une solution partielle, mais clairement utile. C'est vrai que même pour le développement d'Android, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été développées par la communauté qui servent maintenant pour Android. Il y a beaucoup. En fait. Je vous dirais que Linux est majoritairement la source de tous vos outils cloud que vous utilisez. S'il y a une surreprésentation de Linux, c'est bien du côté des serveurs qui hébergent vos sites, des serveurs qui hébergent les solutions de Google, même des serveurs qui tout ça est grâce à la communauté, grâce à Linux. Alors faut vraiment Linux a sa raison d'être, même aussi au niveau des serveurs, mais même aussi au niveau des bureaux.
Mais le problème, c'est que tu trouves pas de télévision sous Linux.
Tu vois? Non. Mais en même temps, j'ai une réflexion par rapport aux télévisions sous Linux. Là, tu parles des media centers, c'est ça que tu parles?
Non, enfin même parce que là, j'étais chez des copains hier soir et ils me disaient leur télé Samsung. Elle ne lit plus certains formats vidéo, enfin je sais plus leur clé USB avec des vidéos dessus ne sont plus reconnues. Enfin c'est complètement foireux. Et il me disait on peut rien faire quoi. On n'a pas le contrôle sur la télé. Tu peux faire une sorte de reset, mais les mises à jour, bien qu'elles soient branchées à Internet, la télé, il faut installer mise à jour via sur une clé USB. Enfin t'as pas du tout la main là-dessus. Donc et je disais il n'y a pas de télévision libre en fait. Tu peux pas installer ce que tu veux sur ta télévision maintenant, parce que maintenant les télévisions c'est presque des ordinateurs aussi, hein, avec tout ce qu'il y a dedans.
Ben c'est ça, c'est exactement des ordinateurs. Puis moi ma vision par rapport à ça là, c'est que on le voit très clairement, les systèmes d'exploitation dans les télés, en tout cas dans mon entourage, je vous dirais, sont vraiment pas utilisés et d'abord sont limitants. On peut pas avoir des Netflix, on peut pas avoir les dernières versions de logiciels, sont jamais mis à jour ou très rarement, ou quand faut les mettre à jour, c'est vraiment pénible. Pour les télés qui sont pas branchées Wi-Fi, il faut prendre une clé USB, aller chercher le firmware, télécharger ça sur ta télé, et puis tu croises les doigts parce que ça se peut que ta télé elle rallume plus après si tu l'as mal fait. C'est vraiment ultra pénible. Non, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je te dis, si tu veux avoir une pérennité dans les médias que tu veux consommer par Internet, c'est clair qu'il faut que tu te détournes vers une petite box. Chez vous, en France, vous avez ça beaucoup, ou sur un Apple TV, ou tout simplement, vous achetez ou vous prenez un vieil ordinateur sur lequel vous installez une version de Windows ou de Linux, de n'importe quoi, mais sur lequel vous branchez un ordinateur sur votre télé, et puis vous avez le plein contrôle de ça. Et même à terme, là, je sais pas si ça va continuer comme ça, les espèces de systèmes d'exploitation embarqués dans les télés, parce que c'est vraiment nul, l'expérience est vraiment mauvaise. Et puis Samsung, c'est pas un fabricant d'OS, Toshiba, c'en est pas non plus. Oui, tu comprends, c'est pas leur core de business. Alors l'auteur dans l'article, il dit ben pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, ben il a décidé d'installer Linux. Et puis un peu comme moi, ça fait plusieurs années que je veux embarquer dans Linux, mais à chaque fois que j'installe Linux, toujours un problème. La carte de son marche pas, la carte réseau marche pas, mon écran est pas reconnu, il y a toutes sortes de problèmes. Ouais. Et puis je vous avoue bien candidement que j'ai installé Linux Mint. C'était la première fois que je l'utilisais et franchement tout a fonctionné. Même l'avantage de ça, c'est que vous pouvez installer Linux Mint sur une clé USB. Vous allez démarrer avec cette clé USB-là et automatiquement, vous allez pouvoir tester l'installation de vos logiciels, tester l'installation de certaines alternatives, parce qu'avec Linux, vous allez peut-être pas avoir toujours les mêmes logiciels, mais vous avez assurément souvent ou pratiquement tout le temps des alternatives pour pouvoir l'utiliser. C'est sûr que ça demande une adaptation. Ça, c'est clair. Mais au niveau matériel, moi, tout a été reconnu. Je me suis même acheté un nouvel ordinateur neuf avec des composants flambant neufs. J'ai fait des petites recherches parce que j'ai pas acheté n'importe quoi. Je me suis fait aider par ma communauté qui me recommandait plus du Intel, qui me recommandait plus du Nvidia, qui était mieux reconnu par Linux. Et tout à fait, le nouvel ordinateur que j'ai va très, très bien. Mais pour ceux qui voudraient avoir l'expérience ultime, comme quand vous achetez un Mac et vous avez l'OS directement embarqué, dans l'article de l'auteur, il fait référence à 4 fabricants qui font des solutions Linux complètes. La première, c'est Dell. Faut souligner, il y a des ordinateurs que vous pouvez acheter chez Dell qui sont complètement avec une solution embarquée de Ubuntu. Il y a System 76, Zarizen, qui offre des solutions déjà toutes faites. Alors, vous avez soit des tours, soit des ordinateurs. Là-dedans, il y a pour tous les budgets. Hein, vous pouvez, il y a des entrées de gamme à 400. Ouais, ouais. Il y a des entrées de gamme pas trop chères et jusqu'à des chers. Et pour ceux qui sont plus du côté Mac, comme moi, qui aimons les choses bien faites et les choses d'une certaine qualité, il y a la compagnie Purism, P-U-R-I-S-M, qui fabrique des ordinateurs et notamment le Librem, L-I-B-R-E-M, qui est vraiment juste fantastique et qui a exactement les mêmes configurations qu'un MacBook. Alors, si vous êtes très déçu des nouveaux MacBooks, peut-être aller voir chez Purism, c'est quand même assez épatant ce qu'il y a. La connexion, j'ai perdu le nom, je vais dans les produits là. Ils ont toutes sortes de produits et le Librem 13, ils ont le Librem 11, 13 et 15. Le Librem 11, c'est une tablette que vous pouvez détacher du dock clavier. Le Librem 13, qui est un format que j'affectionne particulièrement, je trouve que c'est un beau format 13 pouces. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Vous pouvez lire, mais vous êtes pas, vous promenez pas avec un espèce de tableau entre les mains. Et les prix sont entre 1300 et 1700 $, ce qui fait que c'est pas très très loin de chez Apple. C'est tout avec des processeurs et des batteries qui valent vraiment la peine. Et moi, j'ai trouvé une fonctionnalité vraiment intéressante chez Librem. C'est des boutons physiques. Et puis, vous voyez le respect à la vie privée. Des boutons physiques pour fermer la caméra et le micro. Et pour fermer le Bluetooth et le Wi-Fi. Pour pas qu'automatiquement ça embarque, pour pas qu'automatiquement la caméra, quelqu'un puisse la voir ou quoi que ce soit. Ben, y a des boutons physiques pour les fermer. J'ai trouvé ça super cool. As-tu été les voir, les Librem?
Oui, oui, j'ai regardé un petit peu, mais ils ont un OS aussi à eux. Enfin, ils ont développé une version de Linux.
À eux autres,
ouais. Ah, ouais, je vois, ouais. Mais c'est des beaux produits. Peu... Ouais, je vois, c'est vraiment des belles finitions. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien justement chez Apple, c'est que les portables ont vraiment ont vraiment de la gueule. Et puis ils sont bien faits, ils sont bien finis, assez fins. Et c'est vrai que quand je prends un PC à côté, c'est beaucoup moins esthétique. Après, bon.
Faut mettre le prix.
Ouais, voilà. Ou bien faut vraiment mettre le prix, quoi, sur un PC. Donc après, quand on dit que Apple c'est cher, mais si tu veux à peu près la même chose au niveau design et voire puissance, des fois les PC ils se rapprochent de ces prix-là. Donc.
Alors si vous voulez le Librem 13 là, il vient avec 8 GB de RAM, il vient avec un 250 GB de disque dur, un clavier en anglais. Vous pouvez l'avoir juste en anglais malheureusement. Puis ça vient avec, comme disait Gontran, PureOS qui est un Linux en dessous de ça. Et puis c'est un peu ce que j'ai découvert avec Linux, c'est que il y a beaucoup de distributions. Chacun fait son petit Linux à sa sauce comme il le veut. Évidemment, les plus populaires comme Ubuntu, comme Mint, comme Debian et toutes ces versions là, sont mieux supportées. C'est sûr que quand vous allez dans une distribution un peu plus ésotérique, moins connue, ben vous allez peut-être avoir moins de support. Mais comme je vous dis, mon niveau matériel, j'ai eu aucun problème.
Oui, moi non plus.
Alors moi, évidemment, dans mon article, j'ai fait un article sur mon blog qui dit un podcasteur sur Linux, est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. Je fais des podcasts depuis plusieurs jours maintenant avec mon Linux, puis aucun problème.
Merci Linucaster quand même. Hein, aussi.
Oui, ouais. Clairement, mais il y a d'autres produits.
C'est vrai qu'Audacity, ça y est depuis des années.
Exact. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. Je vous passe l'article, vous allez le voir dans les notes d'émission. J'ai évidemment une bête maintenant un peu plus conséquente pour faire du Linux. C'est qu'auparavant, quand j'utilisais Linux, je prenais la machine du coin qui était la moins puissante et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que l'expérience était pas vraiment à son top. Là, maintenant, j'ai vraiment une machine dédiée avec du SSD, beaucoup de RAM, une bonne carte vidéo. Et puis, ça marche si bien qu'un Mac. Et puis, ça m'a coûté une fraction du prix. Et la seule affaire qui est plate, c'est que j'étais obligé d'acheter un Windows, hein, dans l'achat de la tour d'ordinateur que j'ai faite, ben il y avait Windows que j'ai payé parce qu'on peut pas ici au Canada avoir avoir un ordinateur vendu sans système d'exploitation et puis de base c'est Windows malheureusement.
Et tu peux pas demander le remboursement de Windows?
Non, tu te fais regarder vraiment comme un extraterrestre si tu commences à faire ça. C'est pas prévu pour ça. Alors, vous irez voir dans une autre émission, j'ai quelques découvertes au niveau des applications vraiment cool que j'ai faites, notamment Vocal Screen, qui est une application pour enregistrer votre écran, qui marche super bien. J'ai rarement vu une application de captation vidéo qui laguait pas, en fait. Même sur mes Mac, ça lag toujours un petit peu parce que tu le prends en pleine grandeur et ainsi de suite. Mais lui, Vocal Screen, écoute, va très très bien. V-O-K-O-S-C-R-E-E-N. Et puis Audio Recorder, qui est vraiment cool. J'ai payé ça chez Apple pour avoir l'équivalent, ça s'appelle Audio Hijack. Et puis là, évidemment, c'est gratuit. Audio Recorder, vraiment cool. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées au niveau design avec la dernière version de Linux Mint qui j'ai fait l'update. J'en parlais dans le Tech Café. Ça s'est vraiment bien fait. J'ai pas eu besoin de redémarrer 15 fois. Mon ordinateur est pas parti dans les limbes. Rien de ça. Ça s'est fait en temps d'une minute. Et vraiment, c'est comme les systèmes d'exploitation maintenant. Alors, peut-être aller faire un tour chez Linux, peut-être aller essayer ça, aller voir dans une autre émission, il y a des liens qui vont vers des sites, notamment Ubuntu a fait une page pour trouver les alternatives. Si vous avez des logiciels que vous utilisez tout le temps et puis vous voulez savoir s'il va exister une alternative ou qu'il existe chez Linux, il y a une page dédiée à ça qui est vraiment cool, vous pouvez voir. Vous pouvez voir aussi...
On peut tester en live aussi dans le navigateur Ubuntu. Ils ont mis ça sur leur site.
Pardon?
Ouais. Enfin, je sais plus, ça y est encore. Sur le site d'Ubuntu, tu peux, tu peux ouvrir Ubuntu, en fait, dans ton navigateur et tester un peu comme à la manière de, sur une clé USB. C'est moins performant que, puis il n'y a pas toutes les applications, mais ça permet juste de voir, d'avoir un aperçu, en fait, du système.
Effectivement.
Je vais le mettre dans les liens de l'émission.
Super. Fait que ça faisait un peu le tour de cet article que je vous invite à lire, la réflexion qu'il y a par rapport à ça. C'est pas juste un article pour dire Linux est merveilleux. Là, ça part de certains fondements, certains principes. Allez essayer Linux, même que vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous êtes juste l'installer sur une clé USB, démarrer votre ordinateur avec la clé USB, puis vous allez pouvoir l'essayer sans rien abîmer de votre machine. Toi, est-ce que ça t'a donné le goût d'aller chez Linux un petit peu, contre?
Ben moi, j'ai toujours, comme toi, j'ai toujours été très curieux au niveau informatique. Donc, depuis longtemps, j'ai testé Linux. À l'époque où je n'avais pas encore Internet et que j'avais acheté un CD dans un magazine, j'ai installé Linux comme ça. Mais bon, là, c'était, j'avais juste réussi à l'installer. Après, à l'utiliser, à l'époque, ouais, c'est très compliqué. Mais j'ai eu un ordinateur Windows et assez rapidement j'ai installé Linux dessus parce que j'ai toujours eu du mal avec Windows, donc avant de pouvoir me payer un Mac entre guillemets, j'étais passé déjà sur Ubuntu.
Même que ça pourrait être une transition, hein, pour ceux qui n'ont pas un moyen de se payer un Mac versus il y a beaucoup de similitudes, hein, avec Linux et Mac OS. Notamment dans la gestion des fichiers, notamment dans les lignes de commande. Il y a beaucoup de trucs qui sont assez similaires pour ceux qui sont un peu barbus puis qui aiment ça taponner ou jouer dans la machine. Essayez peut-être Linux si vous n'avez pas les moyens encore d'un Mac.
Et puis maintenant, il y a beaucoup moins de... Enfin, tu utilises plus ou très rarement la ligne de commande. Donc, enfin, tu peux vraiment tout en sortir sans taper une ligne de code, en fait.
Alors que ouais, clairement.
Souvent passé par le terminal, là ça va quoi.
Clairement.
C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc puis voilà, vous pouvez tester sur une clé USB, hein. Vous l'installez sur une clé USB, vous démarrez votre ordi comme ça et puis ça coûte rien. Si ça vous plaît, vous pouvez l'installer après. Donc
Exactement, exactement. Même que c'est le meilleur moyen de l'essayer, c'est vous le mettez sur une clé USB, vous essayez les nouveaux logiciels ou les alternatives, et puis si ça va bien, ben vous appuyez sur le bouton installer, sinon ben vous le fermez, vous débranchez, puis ça a pas coûté plus cher que ça.
Oui, puis
Et puis ça m'a amené à...
beaucoup de ce logiciel se retrouvent aussi sur d'autres plateformes, enfin genre LibreOffice, Thunderbird, tout ça. Donc même avec votre Windows ou Mac OS, vous pouvez déjà tester ces logiciels-là.
Et puis il y a beaucoup de par rapport au forum dans l'article, il en parle. Des fois, tu vas sur un forum pour te faire aider et puis c'est un peu plus t'as l'air d'être un extraterrestre ou tu te fais répondre par un ultra geek que tu comprends rien, que tu t'as pas été voir s'il y avait d'autres questions, ainsi de suite. Ça existe aussi chez Linux, là. Il y a toujours des cons, il y en a partout. Mais il y a quand même une volonté d'accessibilité à tous chez Linux qui fait que ben il y a toujours des gens qui vont vous répondre chez Linux. Et puis il y a toujours un support. Comme là, la version Linux Mint que j'ai, elle est supportée pour les updates, les virus et ainsi de suite, les cracks, les crashs et qui pourraient subvenir jusqu'en 2021. Alors si vous voulez avoir quelque chose de stable, vous recherchez les versions LTS, long-term support, qui sont à préconiser si vous voulez quelque chose de stable longtemps avec des mises à jour. Ça m'a amené à un débat sur Twitter avec toi, Gontran. On a parlé on a commencé à comparer les systèmes d'exploitation, puis on les a comparés sur plusieurs catégories. Alors le fameux débat geek va commencer. On compare Windows, Mac, Chrome et Linux. Et puis la première catégorie de notre débat, c'est sur la beauté. Je vais t'y aller. Toi, pour toi, le système d'exploitation le plus beau, c'est une question de goût, hein, c'est subjectif.
Ouais, voilà, c'est une question de goût. Hein. Pour moi, ça reste macOS. Hein.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'interface. Je sais plus à quelle version où ils ont arrêté les petits boutons Jelly Bean là, tu sais, pour fermer, ouvrir en haut à droite, où c'est devenu plus flat un peu. Là.
Je crois que c'était la version précédente. Je crois que c'était la 10.10 ou ouais, 10.9.
C'est quand Johnny Ive a mis sa paluche les interfaces, où là c'est devenu un peu plus beau. Il a retiré le skeuomorphisme et puis c'est devenu un petit peu plus cohérent par rapport aux interfaces de maintenant.
C'est comme iOS en fait, c'est des tas de petits détails en fait qui rendent l'interface pour moi plus belle et plus simple d'utilisation. Par exemple, tu sais, le coup d'œil, c'est quand tu es sur un fichier et que tu appuies sur la barre d'espace, ça te l'agrandit.
Ouais.
Ça c'est génial quoi. Ce genre de petites choses en fait qui me font préférer encore macOS sur certains usages.
Moi personnellement, je dois avouer que j'ai un faible pour le flat design. Depuis Windows 8, je trouve cette façon d'afficher les interfaces vraiment élégante. Windows 10 pour moi c'est vraiment le plus beau. Oui, on peut installer des thèmes sur Linux, mais de base, que ce soit les gestionnaires d'interface KDE, GNOME, tout ça, l'ont pas. De base, c'est encore traditionnel un peu comme macOS. Pour moi, Windows 10, puis c'est évidemment très subjectif. Le flat design, j'en suis tombé amoureux. Malheureusement, sempiternelles mises à jour me plaisent beaucoup moins et m'ont fait changer. Alors pour moi, niveau beauté, c'était Windows 10. Simplicité d'utilisation, pour certains, c'est super important. Puis là, toi, t'as mis Chrome OS.
Oui, parce que à partir du moment où tu sais te servir d'un navigateur internet, ben voilà, tu sais utiliser Chrome OS. Parce que en gros, t'as rien d'autre dessus. Donc,
je suis totalement d'accord pour le niveau de la simplicité. Puis c'est peut-être pour ça qu'il gagne, c'est que dans le fond, il y a pas beaucoup de choses très complexes là-dessus. Il y a juste un navigateur. C'est sûr qu'il est simple. En deuxième, t'as mis Mac OS. Ça me surprend. Je le trouve quand même complexe.
Oui, parce que peut-être parce que je suis habitué aussi, donc j'aime bien tous les gestes au trackpad avec 4-5 doigts, ce genre de choses. Donc,
ouais. Je vous dirais que pour macOS, en fait, si vous avez jamais connu d'ordinateur, c'est vrai que macOS est quand même simple. Vous n'avez pas pris de biais d'habitude. Si vous avez connu toujours Windows, vous avez trouvé que Mac est compliqué.
De toute façon, c'est dans n'importe
quel inversement.
Oui, inversement. Ouais. Quand tu viens d'un autre système, bah, au début, tu as toujours une période d'adaptation. Après, on s'y fait très vite. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient passées de Windows à macOS Et ils en étaient ravis parce que même on n'entendait plus parler parce qu'ils venaient plus nous voir parce qu'ils avaient plus de soucis avec. Et donc c'est vrai qu'au début, t'as toujours une période d'adaptation, mais.
Mais quand tu dis ils venaient plus nous voir, parce que pour les gens là, pour que tu saches, c'était quoi ton ancien emploi?
Alors avant, je travaillais dans une entreprise où on faisait des réparations de tout ce qui produit Apple et vente de pièces détachées. Donc on en reparlera ultérieurement.
Un peu plus tard. Ouais, c'est bon. Catégorie plaisir purement geek où on aime ça jouer, mettre les mains dans le cambouis. J'ai mis Linux en premier. Toi aussi, ça a l'air d'être un consensus. Y a pas à dire. Hein. Quand on aime un peu l'informatique, Linux est super épanouissant parce qu'on est content, on découvre des distributions, on découvre plein de trucs nouveaux.
On peut tout faire dessus, quoi. Enfin, on peut tout faire. Puis voilà, si l'esthétique est important, ben on peut vraiment personnaliser, ouais. Télécharger la distribution qui nous convient le mieux esthétiquement. Enfin, on peut vraiment tout modifier, tout bidouiller. Donc là, Linux c'est le paradis pour les bidouilleurs.
Et puis ben t'as mis macOS en deuxième, comme moi, pour les plaisirs geeks purs, c'est vrai que macOS aussi, on peut faire beaucoup de bidouilles. Il y a beaucoup de hacks qui sont en ligne. En troisième position, t'as mis Chrome OS, ça me surprend. Plaisir geek?
Oui, dans le sens où là aussi tu vas rechercher les applications sur le Chrome Web Store et et tester aussi ce genre de choses. Et pour le plaisir de la découverte que c'est un nouveau système d'exploitation, enfin c'est le plus récent entre guillemets de tous ceux qu'on compare. Donc c'est aussi la nouveauté, le nouveau système, et puis voir qui évolue aussi très rapidement.
Bon, d'un côté mise à jour évidemment, le meilleur. Toi, c'est...
Bah, c'est Chrome OS, hein, bien sûr.
Il y a pas à dire, il y a pas à chier, c'est vraiment le meilleur. C'est très simple, les mises à jour. En fait, vous les voyez jamais. Vous avez pas besoin de pop-up pour redémarrer ou quoi que ce soit. Ça prend pas une éternité. Vous avez pas besoin de vous en occuper. Ça le fait, c'est transparent. Pour vrai, c'est le meilleur au niveau des mises à jour. Ça c'est clair. Au niveau installation, restauration, toi t'as mis numéro 1 Chrome OS, pour le même esprit en fait, j'imagine?
Oui, parce que c'est Chrome OS, tu démarres l'ordinateur, il te demande ton login mot de passe Google, et puis paf, il te restaure, tous tes réglages sont déjà faits, donc t'as rien à faire en restauration de fichiers ou quoi que ce soit, donc tu peux jeter ton ordinateur, en prendre un autre, et juste te connecter, tu retrouves exactement toutes tes affaires.
Ah, ouais, tu m'as vraiment.
T'as pas de sauvegarde à faire parce que tout est fait aussi automatiquement, donc
là. Tu m'as convaincu sur ça.
La récupération de données, y a rien à faire. C'est bien.
Moi, j'étais un peu mitigé dans la mesure où tu vois, j'avais pas vu l'aspect. Tu jettes un ordinateur, t'en ouvres un autre. Avec Linux, tu c'est parce que habituellement, ils sont déjà tous préinstallés. Tu sais, t'as macOS, t'achètes un Mac, t'as macOS, t'achètes un ordinateur, t'as Windows, t'achètes un Chromebook, t'as Chrome OS dessus. Je me disais que le seul qu'on pouvait installer et restaurer, c'était Linux parce que les autres sont de base dessus. Mais c'est pour ça que j'avais pris pour acquis.
Après macOS, tu peux très facilement faire une clé USB d'installation de ton système et pouvoir restaurer sur un Mac évidemment très facilement le macOS le réinstaller très facilement.
Tu peux même l'installer à partir du réseau, t'es pas obligé d'avoir une clé hein, je pense.
Ouais, tu peux même faire à partir du réseau. Donc là aussi c'est très simple d'utilisation. Hein. Alors, bon, Windows, alors c'est lié à une licence. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué Windows. Quoi.
Alors c'était un peu le débat geek par rapport au système d'exploitation. Ce qui nous amène à la capsule Télution que vous enregistrez cette semaine. On va y aller maintenant. Oui, alors la capsule Télution que je vous ai fait cette semaine, j'ai été chez Télution, une compagnie qui avec qui j'ai fait affaire, et je suis pas tombé en amour, mais je me suis lié d'amitié avec le propriétaire parce que je le trouvais débrouillard, je le trouvais jeune, vif et très en mode partage de ce qu'il faisait. Il était en train de réparer un iPhone pour ma conjointe. Typiquement, c'était on changeait un composant dedans. Un iPhone usagé que j'avais acheté. Et il m'a fait ma réparation sur le champ. J'ai pu aller dans son atelier. Il m'a montré comment il répare. Il m'a montré. J'ai trouvé très, très... puis on se connaissait pas, là. Je l'ai trouvé très, très... participatif, ben, pas participatif, comme on dit, très très sympathique là en fait. Et puis j'ai dit à la fin, quand j'ai payé pour ma réparation de téléphone, je dis, ben écoute, ça va te paraître étrange, mais tu sais, j'anime un podcast et puis je trouve que il y a plein de choses que tu as à dire par rapport au téléphone puis qui peuvent être utiles à la communauté. Alors c'est pour ça que j'ai été enregistré cette capsule. Et ouais, une petite mise en garde, j'ai été enregistré ça avec mon téléphone et un nouveau micro que j'essayais. Alors moi, j'étais plutôt bien placé au niveau du micro, mais Pierre-Alexandre moins bien. Et il avait tendance à taper sur la table. Et pendant l'enregistrement, j'ai préféré continuer comme ça parce que bien souvent, quand on dit à une personne ses biais, après ça, elle répond plus de manière naturelle. Elle essaie de se contrôler et puis ça devient gênant pour tout le monde. Alors j'ai préféré peut-être avoir une qualité sonore un peu moins bonne, mais au moins vous avez du contenu super intéressant.
Oui, ça va. Ça va quand même le son.
Ouais, bon. Fait qu'on va l'écouter maintenant par la magie du montage et après ça, on va se parler avec Gontran par rapport à ça. Bonjour, bienvenue dans l'Eclectic Show. Je vous avais prévu que je ferais certaines entrevues dans les prochains mois et puis ben j'ai trouvé une personne assez intéressante à vous amener. Ma première entrevue à l'extérieur, fait que je suis un peu gêné, puis cette personne-là, je pense aussi c'est sa première entrevue tout court, fait qu'on va être deux personnes gênées, mais on va se dégêner au fur et à mesure.
Excellent.
Alors, je vous présente, c'est Pierre-Alexandre de Télution. Bonjour Pierre-Alexandre.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Écoute, merci de nous recevoir dans ton nouveau local qui est anciennement, tu m'as dit, un local pour les femmes pour poser des ongles.
Ouais, un bar à ongles, exactement.
Alors, qu'est-ce que vous allez comprendre tout de suite que on va pas parler d'ongles, évidemment, mais on va parler de téléphone. Pierre-Alexandre, t'as ta compagnie, parle-nous de ta compagnie, ça s'appelle Télution.
Oui, c'est ça. Dans le fond, Télution, faire une histoire courte, on répare tout ce qui est téléphone et tablette. On touche pas à ce qui est ordinateur, on laisse les techniciens informatiques s'en occuper. Et eux, à l'inverse, veulent pas réparer de téléphone.
De téléphone, ouais.
Non. Fait que ça, je peux faire une petite présentation.
Ouais.
Je m'appelle Pierre-Alexandre, j'ai 23 ans, puis je viens de Québec. J'ai toujours aimé faire... toujours taponner ce qui est électronique, tu sais, j'aimais ça.
T'étais le réparateur de la gang, du groupe.
Ouais, c'est ça, de la famille, là.
Ouais,
mon oncle, ma tante, quand les ordi étaient buggés, ben, c'est moi qui s'en occupais.
Fait que là, probablement que tu vas, y a beaucoup de gens qui vont t'interpeller dans le temps des fêtes, tu vas voir ta famille, tout le monde va te montrer son téléphone, tout le monde va dire qu'est-ce que je peux faire, hein.
En effet, surtout qu'ils savent maintenant que j'ai un magasin de réparation de téléphone cellulaire, qu'ils l'auraient cru.
Ouais.
Je vous dirais, j'ai commencé simplement en faisant ça chez nous, de soir, de fin de semaine, pour des amis. Puis, j'ai vu qu'il y avait un engouement. Au niveau professionnel, ben j'ai un cours en assurance de dommages. Fait que assurance de dommages,
aucun lien.
À réparateur de cellulaire, il n'y a pas de lien en tant que tel.
De la pure passion que tu as transmis puis tu as fait ton entreprise.
Ouais, c'est ça. Puis au début, quand Télution a vu le jour, on voulait vraiment marcher par principe de succursale. On voulait pas courir après les clients.
Mais quand tu dis « on », vous êtes plusieurs dans la compagnie?
Ben, en fait, au début, oui, j'ai un mentor là-dedans.
OK.
À ce niveau-là, au niveau financier, des choses comme ça,
okay,
au début,
ouais.
C'était sûr que c'était moins difficile parce que, justement, avec le principe de succursale, c'est on se faisait livrer les téléphones, on les commandait les pièces, on les réparait puis on les renvoyait. Puis, ça a quand même bien été. On manquait d'espace puis on trouvait que c'était... Tu sais, on pouvait aller au deuxième niveau. Puis, deuxième niveau, on s'est posé la question si on pourrait faire un magasin, justement, d'achalandage naturel avec la clientèle locale. Puis on s'est dit, on va l'essayer, tu sais, on n'a rien à perdre. Je cacherai pas, pour l'entrepreneuriat, les premières semaines, les premiers mois, c'est excessivement difficile.
Beaucoup de crabes d'énormes.
Ouais, j'ai pas dormi pendant des soirs, puis finalement, travailler fort sur le marketing, faire venir des gens, des prix compétitifs, où on était d'un premier à Québec à offrir les réparations immédiatement.
Ouais, c'est vrai.
Le client arrive, on répare immédiatement, il n'y a pas de délai d'attente en tant que tel. C'est sûr qu'il y a des modèles qui font des pièces plus spéciales qu'on n'a pas, malheureusement. Mais à ce niveau-là, on prête un téléphone de prêt au client.
Ah ouais, OK. Fait que dans le fond, quand tu restes dans le téléphone très, très populaire, du iPhone, du Samsung, ça va quand même assez bien.
Ben, si je peux donner quelques modèles que je garde beaucoup de pièces, exemple Apple. Pour l'Apple, ça, j'ai toutes les pièces, que ce soit iPad ou iPhone. Sinon, LG G3, qui est un téléphone que les gens brisent beaucoup. De la manière qu'il est conçu aussi, que la vitre est brisée, on n'a plus accès au tactile. Fait qu'on n'a pas le choix, faut remplacer la vitre pour que le téléphone soit fonctionnel. Apple, heureusement, quand on casse la vitre, souvent on a encore accès au
tactile,
téléphone.
Ouais.
Fait que les gens, souvent, ils l'endurent. Sinon, mettons les Sony Z3, Z5, Samsung S4. S5, malheureusement, les pièces coûtent tellement cher versus ce que maintenant le téléphone vaut que c'est plus difficile un peu.
Fait que dans le fond, quand on arrive sur place, ben moi, c'est comme ça que je t'ai découvert.
Ouais.
C'est que j'avais un téléphone à réparer, je suis arrivé sur place, sur l'heure du dîner, 10 minutes, c'était réglé, la batterie était changée, l'écran, tout était magnifique, puis j'étais bien content. Puis ça faisait mon affaire de pas attendre non plus pour un téléphone. Mais on va revenir à la genèse de Télution, 23 ans.
Oui.
23 ans, tu te rends compte? T'es rendu à quoi? 2 succursales maintenant?
Ouais, 2 magasins.
Deux succursales, 2 magasins, puis t'as aussi des points de vente, hein, que tu me disais.
Oui, c'est ça. Au début, quand on a commencé, on en avait 7. On a épuré un petit peu au niveau, parce qu'il y a des succursales qui nous amenaient pas nécessairement beaucoup de volume de vente. Puis qu'on s'est rendu compte que dans ce secteur-là, il y avait déjà un magasin qui le faisait, qui offrait le service un petit peu plus rapide que nous. Fait qu'à ce niveau-là, on épure un peu. On a demandé aux clients s'ils voulaient vraiment garder, puis finalement, ils ont dit « non, on va laisser faire ». Fait que sont une à la Malbaie, puis une à Valleyfield. C'est des magasins qui roulent quand même beaucoup, des magasins d'électronique, justement, sont comme tout seuls, fait que les gens savent pas vraiment où aller. Fait qu'on reçoit les téléphones, on les répare dans des délais de 24-48 heures, souvent les gens vont recevoir
leur téléphone. OK. Et,
au niveau des prix, c'est assez compétitif.
Mais là, je te ramène là, sur le 23 ans. 23 ans, t'as ta compagnie, t'as combien d'employés?
On est rendu à 5.
5 employés, 23 ans. Ton père ou ta famille, ils doivent te dire c'est un passe-temps, ça comment ils prennent ça?
Je vous dis, ben, ils prennent quand même bien, mais c'est sûr que du côté de ma mère, il y a beaucoup d'entrepreneuriat.
Okay.
Ma grand-mère est quelqu'un qui a eu des magasins un peu partout au Québec, des magasins de vente de des choses médiévales, des choses chinoises.
Okay.
Fait que l'entrepreneuriat vient un peu de là.
Dans le sang, là, dans cette famille.
Ouais, ça. C'est ça. Puis, ben, ma mère a tout été gérante puis coordonnatrice des magasins. Fait qu'à ce niveau-là, mon père, lui, il travaille depuis 35 ans à même job. Fait que, à ce niveau-là.
OK, c'est pas du côté de la mère que tu tiens ça.
Un petit peu, là, ouais.
OK, c'est bon. Moi, je t'ai rencontré en septembre dans ta boutique que tu as sur la rue Saint-Sacrement. Depuis le temps, t'as une boutique sur la rue Saint-Jean à Québec, et depuis le temps, t'as réussi à quand même aussi à rénover en même temps ton autre boutique, tes deux boutiques. Je suis assez impressionné.
Ouais.
Est-ce que tu dors la nuit?
Quand même, je réussis à dormir plus paisiblement depuis les
maintenant.
Débuts. C'est sûr qu'au début, quand on a ouvert, on se pose tout le temps la question, ça va-tu marcher, ça marche
ouais.
pas. Fait que on a ouvert en limitant les frais, si on peut dire. Fait que c'est pour ça qu'on maintenant on peut un petit peu mettre ça plus beau, plus accueillant, plus confortable, plus chaleureux. On offre des cafés, des boissons froides à nos clients. Fait que.
Ben écoute, c'est fantastique. Moi là, j'aime beaucoup l'idée du magasin qu'on répare en temps réel. J'ai même été dans ton atelier sur Saint-Sacrement. On a commencé à parler de téléphone. Tu répares les vitres, tu répares les caméras aussi. Tu répares un peu tout sur un téléphone.
Je vous dirais, sur un appareil, il faut un petit peu comprendre la base de comment l'appareil est fait pour savoir ce qui se répare. En gros. Souvent, ce qui est pas réparable ou qui va coûter vraiment cher, c'est ce qu'on va appeler la carte mère, la motherboard. Souvent, si c'est quelque chose dans ça qui est brisé, ça va souvent être plus bénéfique de soit acheter une carte mère usagée puis de remplacer.
Ah, OK, on peut faire ça, comme un ordinateur.
Ouais, c'est ça, que de la réparer en tant que telle, parce que c'est des pièces spéciales, la main d'œuvre spéciale. Fait que tout ce qui est chargement, caméra, écran, c'est comme du plus, ça on est capable de les réparer. Il y a certains modèles qui sont dans leur conception, c'est un exemple un Samsung, souvent les connecteurs micro USB vont être soudés sur la carte mère.
Tu fais que quand ça c'est cassé, c'est la carte mère qu'il faut remplacer.
Qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, la pièce, exemple, elle va coûter 3-4 $. La personne qui va faire ça va me charger 160 pour faire la micro-soudure. Puis il y a des risques de casser d'autres choses en faisant la manipulation.
Okay.
On travaille avec beaucoup de chaleur puis des outils spéciaux. Fait qu'on peut venir endommager d'autres
composants.
D'autres composantes. Mais vraiment pour ce qui est iPhone, pas mal tout se réfère à part la carte mère, que ce soit les ports de chargement, c'est toutes des choses qui sont en place assez facilement et à faible coût. Souvent, Apple vont dire, ils vous en font un neuf, mais à l'inverse, vous devriez toujours avoir un deuxième avis pour être sûr.
Ouais.
Parce que...
J'ai acheté le livre de Pierre-Yves McSween, « En as-tu vraiment besoin? » Puis là-dedans, il y a un chapitre sur les technologies et il dit que ben on devrait jamais... Habituellement, si on veut économiser en technologie, c'est jamais d'acheter le dernier cri, la dernière technologie. Quand je t'ai parlé la première fois, tu me parlais des prix des batteries des téléphones iPhone, puis t'étais un peu dans cette lignée-là. Tu me disais, ben la batterie du nouveau iPhone 7 qui va sortir, ça se répare pas. Ça se répare, on peut l'avoir, mais ça va coûter une fortune. T'es mieux de prendre le Apple Care. Puis je fais du lien là-dessus. Si on répare un entretien bien un téléphone, exemple, on change la batterie après 2-3 ans, on peut quand même toffer son appareil relativement longtemps. Tu vois-tu encore des iPhone 4 qui viennent au magasin?
Oui, je répare encore. Souvent, les iPhone 4, ça va être des batteries ou des écrans.
OK.
Veux pas, ils ont des défauts de fabrication. Souvent, après un certain temps, ils détecteront plus les cartes SIM, le réseau Wi-Fi. Ça, okay. C'est des modules intégrés à la carte mère. Qu'à ce niveau-là, c'est plus dur un peu à réparer, considérant le prix que le téléphone vaut. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple sont forts là-dessus pour nous faire changer d'appareil. Ils vont mettre des mises à jour qui sont beaucoup trop exigeantes pour l'ancien appareil. Ouais. Ils vont faire en sorte que l'appareil est lent, il va bugger. Fait qu'ils vont forcer le monde à changer de téléphone.
Serais-tu jusqu'à dire de pas mettre les mises à jour de iOS si on veut garder son téléphone longtemps?
En fait, non. T'sais, exemple, quelqu'un qui vient d'acheter l'iPhone 7, il n'y a pas à se poser la question pour les deux prochaines années. Il peut faire ses mises à jour, il n'y a pas de problème. C'est juste quand on voit que le modèle commence à être dépassé, qu'il y a deux modèles de plus ou trois, là, faut se mettre une petite contrainte puis de double vérifier sur des forums, à savoir si la mise à jour est bénéfique vraiment pour l'appareil. Puis si on prend exemple sur iPhone 4, t'sais, les nouvelles fonctions des mises à jour, le HomeSense, l'iPhone 4, il est pas capable de supporter, tu sais.
Toutes ces choses-là. Fait qu'on est mieux d'attendre.
Ça, fait que de faire une mise à jour, ça le tue. Pour ce qui est vraiment des iPhone 4, si je vois que les mises à jour sont 10 ou supérieures, je refuse des remplacements de batterie. Pourquoi? Parce que c'est pas la batterie. Oui, la batterie, elle fait un compromis, mais c'est vraiment plus la mise à jour qui draine toute l'énergie du téléphone. Un peu comme les vieux ordi qu'on met en Windows 8 ou Windows,
Windows 10.
Au début, quand on achetait l'ordinateur, il était en Windows XP. L'ordi, il est pas fait pour ça. T'sais, oui, on peut le faire, mais on fait ralentir l'appareil, puis on met terme à sa vie plus rapidement.
Fait que dans le fond, on peut... ce que vous entendez là, c'est qu'on peut économiser en faisant attention à son appareil, en changeant certaines pièces. J'ai vu aussi que dans les iPhone 5, 5S, tu avais des batteries supérieures qu'aux batteries originales.
Oui.
Fait que ça, c'est intéressant aussi si tu veux faire ton produit plus longtemps. Au niveau des garanties, toi, tu as ta garantie sur ces batteries-là.
Oui, c'est ça. Moi, toutes les réparations en majorité sont garanties 90 jours, pièces et main-d'œuvre en magasin. Au niveau des batteries, j'offre des batteries Advanced, qu'on appelle. C'est des batteries que le milliampérage, la charge est plus, pas plus lente, mais ils vont tenir leur charge plus longtemps.
Okay.
Souvent, ce que j'explique aux gens, c'est pour pas trop les mêler, parce qu'on parle de milliampères. C'est comme comparer une batterie de Dollarama Panasonic versus une batterie Duracell qu'on va payer 3-4$.
Ouais.
T'sais, la batterie Duracell, on va faire plus longtemps avec, elle va tenir plus longtemps que la batterie Panasonic.
Mais là, je t'arrête, PA. Là. T'es-tu en train de dire qu'il y a des batteries de mauvaise qualité dans nos produits iPhone?
C'est pas de mauvaise qualité, je vous dirais. Ils ont été pour le sécuritaire.
Ce qui va bien fonctionner
parce
sur longtemps.
Parce qu'une batterie à plus fort milliampérage qui va arriver, c'est lors d'une longue charge, elle va chauffer plus qu'une batterie standard. C'est sûr qu'au début, Apple a peut-être eu peur, un peu comme l'iPhone 7, qu'ils ont donné une étanchéité moins, un grade moins fort qu'en réalité, il est
capable de prendre, ouais.
Ça, Apple se garde tout le temps de marge de manœuvre, comme une sécurité, c'est correct. C'est comme ça, au moins, ils peuvent garantir des bons produits, puis, mais c'est ça, à ce niveau-là, les batteries à plus fort milliampérage, même s'ils chauffent plus, causeront pas de dommages à l'appareil. C'est le même voltage, puis le même nombre de watts-heure.
Parlant de voltage, quand j'attendais ma réparation, un de tes employés faisait ma réparation, ben, il y a une cliente qui est arrivée, puis elle avait un iPhone 6, puis c'était très drôle parce que t'as transformé, en expliquant comme il faut, là, sans faire de la vente là à outrance, puis sans faire ton peddler de je sais pas, chez Best Buy, exemple.
Ouais.
On rit parce que, dans le fond, PA, tu viens de chez Best Buy, de cette école-là, et puis tu sais, quand tu dis peddler, tu comprends un peu ce que je veux dire.
Ouais,
les garanties. Les vendeurs, et ainsi de suite. Bon. Fait qu'une cliente est arrivée et puis tu avais remplacé son écran et puis son iPhone entre l'écran et le métal du iPhone, ben ça avait décollé. Et puis là, la cliente a pensé que tu avais mal posé l'écran, mais en la questionnant sur ses usages puis son utilisation, tu t'es rendu compte qu'elle utilisait pas le bon chargeur.
Non.
Et puis moi je viens de l'école de chez Apple qui dit il y a une liste là qui dit tu peux prendre tel chargeur avec tel appareil, tu peux même prendre le chargeur 12 watts du iPad pour un iPhone. Et puis toi t'es un peu plus réservé par rapport à ça.
Oui.
Explique qu'est-ce qui est arrivé finalement à cette dame-là, que son écran a décollé. Pourquoi son écran a décollé?
Ben souvent, vu que j'utilise des pièces originales, vu que c'est de la qualité originale, c'est rare qu'il va avoir des problèmes en tant que tel, tu sais, que l'écran est mal collé, que les tactiles vont mal. Fait que je prends tout le temps du recul, puis je me dis qu'est-ce qui pourrait causer ça. Puis c'est ça le si on peut dire l'écart qui était entre la vitre
puis le métal là, de la dame,
le métal semblait avoir quelque chose qui obstruait le tu sais, on pesait puis ça voulait pas aller plus loin,
il y avait quelque chose à l'intérieur qui avait poussé là, ouais, qui avait grossi là.
C'est ça. Puis en questionnant la madame, je me suis rendu compte que elle rechargeait peut-être pas son appareil de la bonne manière. Puis en ouvrant l'appareil, j'ai constaté dans l'immédiat que la batterie avait gonflé. Les batteries m'ont gonflé quand elles vont trop chauffer, justement.
Fait que si on les laisse sur des... Là, tu l'as questionné, puis t'as finalement trouvé la vraie source du problème. C'était pas l'écran, c'était finalement la façon qu'elle utilisait.
C'est ça, c'était vraiment au niveau du chargement. Si je peux vous conseiller un peu sur le chargement, c'est simple. Chaque bloc a son descriptif, dans le fond, ce qui donne comme ampérage, des choses comme ça. Pour tout ce qui est produit Apple, de 0.5 ampères jusqu'à 2 ampères, il n'y a pas vraiment de problème en tant que tel à utiliser un 0.5 ou un 2 ampères. Ça va vraiment être le délai que vous allez recharger votre téléphone. Quelqu'un qui va recharger son téléphone toute la nuit peut le mettre sur un bloc 0.5 ampères, 1 ampère. Ça va être une charge lente, mais la batterie ne chauffera pas.
Okay.
Tandis que si on utilise un bloc 2 ampères, communément appelé les fast charge de Samsung, qui disent que l'appareil est rempli en 30 minutes, mais quand on le charge pendant 8 heures de temps, c'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement excellent pour le téléphone. Oui, ces blocs-là, les blocs iPad, les 12 watts peuvent nous aider. On est sur l'heure du souper, on a quelque chose en soirée, on regarde la batterie de notre sel, 15%, on va tout faire soirée. Bonne question. Là, on peut mettre un 2 ampères pour s'assurer d'une petite charge de 15-20 minutes, une demi-heure, pour être sûr de toffer toute la soirée. Mais en théorie, le bloc qui est branché sur le bord de votre lit, à votre table de nuit, devrait être maximum un ampère. C'est pour ça aussi que les charges d'ordinateur, c'est lent parce que c'est du 0.5 ampère.
Okay.
Si on compare un 2 ampères à un 0.5 ampère, à ce niveau-là, un 2 ampères va être 4 fois plus rapide qu'un 0.5 ampères.
Tu es en train de dire qu'il y a plus d'ampérage dans les chargeurs de nos petits téléphones que dans les chargeurs de nos gros ordinateurs?
Au niveau informatique, je pourrais pas confirmer, mais...
Ça arrive.
Okay. Surtout le bloc iPad, le 12 watts, c'est un 2.2 ou 2.4 ampères. Fait que c'est très puissant, là.
Fait qu'il faut pas le laisser trop... On peut l'utiliser, mais pas le laisser toute la nuit.
C'est ça. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un composant de charge de tout appareil, il y a comme 3 pièces. De un, il y a le port de charge, le truc USB qu'on va pouvoir brancher notre fil dedans. Ensuite, il y a le circuit qui se rend à la carte mère. En langage de réparateur, on appelle ça le IC de batterie.
Mm-hmm.
C'est lui qui va détecter vraiment la charge pour l'envoyer à la batterie. Et ensuite, bien sûr, il y a la batterie. Souvent, Apple, ce qui est malheureux, c'est qu'ils vont limiter le nombre d'utilisations du IC de chargement. Exemple, la moyenne, c'est à peu près un 550 à 600 cycles de recharge. Puis après, ces 550 ou 600 cycles de recharge-là, le module va devenir défectueux. Fait que là, le téléphone ne tiendra plus sa charge. Ou il va mal détecter les fils, des choses comme ça. C'est commun dans les derniers modèles, 5S, 6.
Okay.
J'ai quelques modèles qui ont commencé à faire ça. C'est pas tout le monde que ça touche, mais il y a quand même beaucoup de monde qui sont touchés par ça, pis c'est triste parce qu'il faut remplacer l'appareil parce que l'appareil veut juste plus tenir sa charge.
Okay.
Même en remplaçant la batterie, le téléphone perd quasiment 1% à la seconde, fait que c'est pas...
C'est pas efficace.
Non, c'est pas efficace.
Dis-moi, chez Télution, là, les remplacements les plus populaires, qu'est-ce qu'on fait en majorité, là, le ton pain et ton beurre de ton commerce, de ton fonds de commerce, c'est quoi en ce moment?
C'est vraiment les réparations de vide d'iPhone. Ah.
Juste faire une petite pause. Ah. Ah, bon. On va faire juste une pause. Il n'y a pas de problème. Regarde, on a coupé parce que PA avait des appels. C'est ça le secret des affaires. À un moment donné, on n'a plus autant de loisirs. Il faut s'occuper des clients. Fait que oui, le pain et le beurre de Télution en ce moment, qu'est-ce qui t'amène le plus de clientèle?
Ben, pour être honnête, c'est sûr que les remplacements de vide d'iPhone, c'est ce qui est le plus populaire, malheureusement. Heureusement, mais au niveau des prix de réparation, je suis excessivement compétitif, ouais. C'est rapide.
Je confirme.
Apple, oui, ils ont un bon service avec ça quand même. Là. Ils ont certains critères. Il faut pas que le téléphone soit poqué, parce que sinon ils pourront pas remplacer la vitre. Mais à ce niveau-là, je suis très compétitif. Exemple, un iPhone 5S, chez Télution, on parle d'une réparation de vitre et écran à seulement 69,99 versus Apple à 169 sans Apple Care. Puis ils peuvent souvent refuser la réparation si le téléphone présente un
risque qu'il brise plus en le réparant, c'est ça.
Souvent les coins vont avoir plié, tordu lors de l'impact, fait que la vitre ne rentrera pas. Moi, je suis équipé pour les décrocher. Apple se sent pas à l'aise de décrocher les téléphones, fait qu'ils vont offrir un remplacement à 369 plus taxes.
OK, il les remplace. Quand je t'ai venu la dernière fois, je t'avais parlé de mon iPhone 7, puis je t'avais dit, ben, pour un écran, tout ça. Puis t'avais été voir les prix, puis très, très humblement, puis très honnêtement, tu m'avais dit, ben, ça, là, quand tu vas avoir ton iPhone 7 qui va briser dans les premiers mois, viens pas chez moi, parce que ça va te coûter beaucoup moins cher chez Apple. Oui. Ça, c'est vraiment bien pour le client, parce qu'on se sent pas fourré, on se sent pas...
Ouais.
Ça, on apprécie ça. Fait que là, t'as parlé des coûts un peu... t'as parlé aussi de des produits que tu utilises. Sur Internet, en Europe, il y a de plus en plus ça. C'est des espèces de kits pour réparer les téléphones.
Oui.
Il y a aussi iFixit qui offre des kits de réparation. Est-ce que tu conseillerais à monsieur, madame, tout le monde d'aller là-dedans ou faut avoir un minimum? Est-ce que c'est assez simple ou c'est encore en fonction du téléphone?
Ben, je vous dirais, ça va dépendre de la personne. En fait, puis oui, du téléphone. Je vous dirais que faire les choses par nous-mêmes, on va toujours économiser de l'argent. Tu sais, veux pas, j'ai deux magasins, on peut comprendre que j'en fais un certain profit avec ça. Le seul risque qui peut arriver, c'est quelqu'un de pas expérimenté, surtout pour des appareils comme iPhone, que les pièces sont excessivement fragiles. J'ai déjà vu des clients...
Essayer eux autres-mêmes.
Ils m'appellent, ils me disent « Ouais, j'essaie de remplacer ma vitre. Je sais pas si c'est ma vitre ou mon téléphone. Là, tu pourrais-tu lui jeter un petit coup d'œil, voir? » Puis, une fois le téléphone arrivé en magasin, je regarde les connecteurs. Les connecteurs ont malheureusement été endommagés. Fait qu'à ce niveau-là, faut remplacer les connecteurs qui sont soudés sur la carte mère. Alors, malheureusement, le téléphone, il est brisé, entre parenthèses. Ça va souvent coûter moins cher
de le changer.
Fait qu'à ce niveau-là, de prendre le risque de remplacer soi-même ses pièces, c'est pas avantageux. Vraiment, ma marge de profit versus l'argent que vous sauveriez, est pas bénéfique. C'est vraiment une pièce originale avec le kit d'outils approprié.
Ouais.
Parce que oui, exemple sur... on prend un exemple comme ça, eBay. Vous pouvez acheter un écran, un copie de Chine, avec un petit kit d'outils pas aimanté. Vous allez avoir beaucoup de misère avec vos vis. Dans le fond, vous allez les dévisser, mais ils suivront pas.
On va les perdre.
Vous allez les mettre sur la table, ils vont tomber à terre. C'est très important, faut toujours tout remettre les vis. Ils ont toutes...
Une utilité
en tant que telle.
Moi, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Je démonte un truc, il me reste plus de pièces une fois que je l'ai remonté, ouais. C'est pas bon.
Il reste des vis à la table. Bon, correct. Ça devait aller ailleurs.
C'est ça.
Mais c'est ça. Vous allez payer ça, si vous êtes pas chanceux, mais tu sais, sous magasin un peu, vous allez payer ça, peut-être on va y aller avec une base, un iPhone 5S, un kit de réparation avec la vitre chinoise, bien sûr. On va payer ça peut-être aux alentours de 25-30$.
Ouais.
À peu près.
Mais si on réussit, on est content. Mais ouais. Si on réussit pas, ben on est dans la merde. On a peut-être brisé plus.
Ouais.
Puis en bout de ligne, on n'a pas de garantie. Tu sais, si la vitre était de mauvaise qualité ou un problème de fabrication, on peut rien faire.
Puis c'est ça. Je vous dirais sur Internet, trouver des pièces originales, c'est presque impossible.
Okay.
Puis moi, pour avoir travaillé dans le passé avec justement ce type de pièces-là, c'est que de un, c'est très long avant qu'on reçoive les pièces.
Exact.
Surtout si on commande de Chine. Puis une fois que ça arrive, ben je veux pas être pessimiste ou négatif, mais C'est impossible qu'il manque rien, que tout fonctionne bien. C'est presque impossible.
OK, il faut vraiment en avoir... Dans ton atelier, quand on est sur Saint-Sacrement, là, il y a ton... t'appelles ça ton cimetière, je pense?
Ouais, ou... le graveyard.
Graveyard.
Le cimetière à pièces.
Le cimetière à pièces. On voit que tu t'es beaucoup pratiqué sur beaucoup d'appareils là que tu as utilisé, que tu as essayé, que même que tu récupères des pièces probablement pour les clients là.
Oui.
Fait que c'est sûr que tout ça ça a un coût que vous avez pas à payer ou à débourser si vous le faites faire affaire avec Télution. Là. Ça
c'est ça, tu sais au final votre réparation en venant chez nous, vous allez peut-être payer un 20$ de plus exemple. Mais vous allez de un avoir une sécurité, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête pendant peut-être une heure ou deux heures de temps parce que vous n'êtes pas familier et habitué. Puis si jamais il y a quelque chose, ben c'est pour ça qu'on a fait une garantie 90 jours à ce niveau-là. Je vous dirais vraiment pour moi qui ai des bases un peu en tout, changer une barrette de RAM ou un disque dur sur un ordinateur, c'est quand même assez simple.
Oui,
mais remplacer un écran d'un iPhone, c'est un autre coche là, c'est
j'ai vu ton matériel là, tu me montrais que dans certains cas les iPhones, la madame qu'on parlait tantôt, son iPhone ben faut remettre un produit, une espèce de scellant pour la vitre, tu sais, c'est pas juste de démonter ou de remonter, il y a des espèces de pinces pour les écarter comme il faut sans rien briser. Tu me montrais une espèce de plaque chauffante pour des téléphones qui ont besoin d'être chauffés pour pouvoir retirer, décoller. Tout ce matériel-là, si tu l'as pas, tu peux t'improviser, mais c'est pas mal garanti que tu vas le briser. Tu me parlais aussi de réparation à froid maintenant. En Chine, tu avais vu ça, je pense, qui au lieu de mettre ton appareil, de le chauffer à 100 degrés, là, tu allais à froid pour défaire certains.
Oui, c'est ça. C'est ils appellent ça du cold pressing. Dans le fond, c'est au lieu de travailler avec vraiment la chaleur qui peut venir endommager des composantes en les brûlant, ils vont y aller à froid. Honnêtement, j'ai pas testé encore, je suis pas équipé pour ça. J'ai vu beaucoup de gens sur internet, tu sais, j'ai vu les machines qu'il fallait, comment ils travaillaient. Ça a l'air à se travailler beaucoup plus facilement qu'avec la chaleur. Avec la chaleur, on va comme venir faire fondre la colle, on va perdre un peu de son adhésion, mais jamais de là à ne plus avoir d'adhésion. Tandis qu'à froid, c'est ça qu'on va venir faire. C'est on va vraiment éliminer l'adhésion au complet en la gelant.
Ce qui fait que ça colle plus, c'est que tu la déclipses complètement.
C'est vraiment comme s'il y avait rien qui le retenait. Je l'ai pas essayé encore. Ces machines coûtent excessivement cher. Je vais commencer par voir
Les retours par rapport à son usage. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais ce que ça démontre, c'est que tu fais beaucoup de veille. Bon, maintenant, on va parler un peu d'anecdotes. On va démystifier certains trucs.
Oui.
Quand je t'avais rencontré, on avait parlé l'histoire du riz, le mythe du riz. Moi, j'ai mon iPhone. Il tombe dans l'eau. Je le prends, je le mets dans le riz. Et puis, j'essaye et j'ai espoir que ça fonctionne. Est-ce que ça marche bien, ça, le riz?
Malheureusement, un téléphone qui va tomber à l'eau, ce qui va arriver, oui, le riz peut être bon sur le coup. Pourquoi? Parce que les iPhones, c'est des produits qui vont beaucoup retenir l'eau à l'intérieur du téléphone. Cependant, même dans le riz, un iPhone prend minimum une semaine à une semaine et demie avant de sécher complètement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on échappe le téléphone à l'eau, sur le coup, le téléphone, souvent, il va se mettre en mode protection. Il détecte de quoi d'anormal, il ferme. Il se dit, il y a quelque chose d'anormal. Il fait bien sa job. Sauf que quand on rajoute le facteur humain, qui est empressé, qui a hâte de revoir son téléphone, qu'on tente des manipulations, on pèse power, on met le fil de charge, là, on stimule l'appareil. Puis que s'il reste de l'eau dedans, on va causer ce qu'on appelle un court-circuit. Fait que souvent, c'est ce qui arrive. Les gens le mettent dans le riz 24-48 heures. Après ça, ben ils branchent, ils essayent des manipulations, ils rouvrent, ils sont contents. Puis après une minute ou deux, ben puis court-circuit,
c'est ça. Tu l'as brisé toi-même.
C'est ça. Fait que qu'est-ce qu'il faut savoir, si je peux vous aider là-dedans, c'est si jamais ça arrive à un proche ou à vous, que vous échappez votre téléphone à l'eau, vous embarquez dans la piscine avec, aussitôt que vous avez connaissance, tu sais, du fait, tu sais, que vous voyez, faut, si le téléphone n'est pas éteint, faut l'éteindre immédiatement. Oui, le riz peut aider le temps que vous venez porter à un technicien, mais il faut vraiment ouvrir l'appareil, l'assécher, nettoyer les
comme
résidus
il faut,
d'eau.
On n'y échappe pas.
Qui vont, dans le fond, l'eau en séchant va faire de la rouille sur les composants. Fait que nous, on va tout venir retirer ce rouille-là. Puis souvent à 80-90% des champs, je suis capable de les sauver. Si le client justement n'a pas tenté des manipulations en leur chargeant en appuyant sur Power, puis en essayant de l'allumer en tant que tel. Heureusement, l'iPhone 7 est waterproof.
Oui, c'est ce qu'ils disent.
Fait qu'à ce niveau-là, ça va un petit peu diminuer les bris d'eau.
Et, en fait, 30 minutes, je pense, dans moins d'un mètre d'eau. Hein. C'est pas tant waterproof que ça. Là.
Ben, j'ai vu des vidéos sur Internet. C'est des gens des États-Unis qui ont comparé le S7 versus le iPhone 7.
Ouais.
Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo. Ils mettent les deux téléphones dans une canne de peinture percée.
OK.
Que, dans le fond, l'eau peut rentrer, attacher une corde. Puis, il compare justement la résistance des deux téléphones. Puis, il commence le test 5 minutes, 5 mètres, 5 minutes, 10 mètres, 5 minutes, 15 mètres. Puis, à fin, si je me rappelle bien, ils descendent les appareils à 32,5 mètres. C'est le maximum qu'ils peuvent aller parce que c'est le fond du lac. Puis, après 5 minutes, ils retirent la chaudière. Le Samsung S7, malheureusement, est... capote, peut-être défaut de fabrication, mais l'iPhone 7 marche encore super bien.
Tu es en train de dire que Samsung aurait certains défauts?
Ben là, à 35 mètres, il n'y a pas grand monde qui peut garantir la résistance.
Ouais, non, ça c'est clair.
Du téléphone.
Ben, je faisais plus référence au Note 7. Est-ce que tu as eu des explosions dans ton magasin?
Non, j'ai malheureusement pas vu le Note 7 de mes propres yeux. J'ai un client qui est venu faire réparer un téléphone parce qu'il l'avait acheté en attendant de recevoir son Note 7. Parce que justement, il y avait eu le rappel dessus, mais je l'ai jamais vu en vrai. Okay. Juste vu sur Internet.
Des explosions.
Des maisons en feu et des sacoches en feu.
Fait que le riz, c'est un mythe. Faut bien quand même ouvrir le téléphone puis la sécher.
Ouais.
Là, on a parlé tantôt de pas utiliser n'importe quel chargeur. Utiliser privilégier des petits chargeurs quand vous avez une longue durée de charge et puis des gros chargeurs quand c'est des choses très courtes. Rapidement, je comprends que Apple, c'est plus simple à réparer que Samsung.
Oui, quand même. On dirait que c'est triste, mais Apple ont fait leur téléphone pour qu'il brise puis qu'il soit réparable.
Ouais, okay.
Samsung sont réparables. La seule chose qui est plate, c'est que les pièces sont excessivement dispendieuses. Puis au niveau des réparations, sont beaucoup plus complexes.
Okay.
Exemple, si on prend le Samsung S5, peu importe la réparation que j'ai à faire sur l'appareil, faut que je passe par la vitre. Faut que j'enlève l'écran complet du téléphone pour venir sortir la carte mère. Mais... les écrans sont tellement minces que
ils cassent.
Fait que tu sais, quelqu'un qui veut remplacer un port de chargement sur ce modèle-là, qui est quand même assez simple, qui est une pièce qui est, on va charger mettons, $30, faut que je passe par l'écran, puis faut que j'avise des clients qu'il y a un risque que je casse l'écran en faisant la manipulation. Puis un écran là-dessus, malheureusement, c'est $230.
Wow! Pas ouais. Encore changé.
C'est mieux que l'iPhone 5S à 69,99.
Ouais, c'est clair. Je t'ai parlé aussi l'autre fois, la dernière fois qu'on s'était rencontré, de la vague des téléphones chinois qui est en train d'arriver avec des Huawei, avec des ZTE, avec des Xiaomi. Ton opinion par rapport à ça, est-ce que ça vaut la peine de faire importer un téléphone chinois ou c'est toujours préférable d'acheter un téléphone qui se vend dans son pays?
Ben ça va dépendre de ce que la personne veut en faire. Les téléphones chinois, le gros avantage, souvent ce que les autres auront pas, le dual SIM.
Oui, c'est vrai.
Ça c'est sûr, quelqu'un qui fait Canada, États-Unis, c'est pratique, ou même faire en Europe, de Belgique à Suisse, ouais. Je sais pas les ententes, etc. Mais c'est vraiment pratique le dual SIM. Sinon aussi, il va avoir les cartes micro SD. Que souvent le Samsung l'ont mis avec le dernier modèle.
Ah, c'est-à-dire qu'on peut extensionner l'espace de stockage.
Parce que le problème d'Apple numéro un va toujours rester le stockage.
Mais non, ils nous vendent des 128 gigs puis des 256 gigs.
Il y a encore du monde qui ont des 8 puis des 16 gigs qui sont pas capables de suivre la...
C'est vrai.
Mais c'est ça. Seule chose, par exemple, qui est plate, c'est exemple, si je prends un exemple québécois, il y a beaucoup de monde qui prennent des téléphones à 0$ avec des ententes de 2 ans. La marque Alcatel.
Ouais.
Malheureusement, c'est des téléphones que dans la conception, tout est collé, tout est figé ensemble. Fait que juste remplacer une pièce, ça devient un... Excusez l'expression, mais ça devient un carnage.
Okay, ouais.
On casse tout en essayant de réparer ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les pièces coûtent le prix du téléphone.
T'es mieux de changer.
Exemple, un Pixie ou un Pixie 3, une vitre là-dessus, le moins cher que je réussis à trouver, c'était comme 160-180 de Chine. Puis, c'est un téléphone qu'ils vont vendre 200, 225, pas d'entente. Fait que tu sais, c'est comme une série jetable, si on peut dire.
Fait qu'on, ce qu'on pourrait dire, c'est habituellement, on essaye d'acheter les choses qui se vendent le plus. T'es exemple, un parallèle dans l'automobile, si t'achètes une Toyota Corolla, tu sais que ça va être assez facilement réparable, tu sais qu'il va y avoir des pièces, tu sais que tu vas avoir du service. C'est un peu pareil pour les téléphones, des affaires avec des noms étranges, ça, bon, à éviter si on veut garder à long terme.
Oui, c'est okay, ça, c'est en
parfait,
plein ça.
Parfait. Dernier truc, ton coup de cœur de l'année au niveau des téléphones, t'en vois beaucoup passer. Lequel qui t'as aimé, je t'ai posé la question avant, là, tu as peut-être réfléchi un peu ou pas.
Ouais.
Lequel t'as préféré cette année 2016? Si je voulais m'acheter un téléphone, exemple, on va y aller comme ça. Un téléphone moyenne gamme, bas de gamme, idéal pour faire du long terme, ça serait quoi? Motorola ou?
Ben, je vous dirais, honnêtement, si, admettons, on peut y aller, c'est vraiment iPhone versus exemple Android,
ouais,
deux systèmes d'exploitation différents. Pour le iPhone, ben bien sûr l'iPhone 7 vu que c'est le dernier cri qui était en shallow versus le 6S. Tout ça, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de latitude à comparer à autre chose. C'est sûr qu'il y a le goût fond là, mais pour ce qui est des appareils Android, je suis pas capable de dire vraiment c'est ce modèle-là. Il y a le LG G5 qui est une très belle machine qui ont sorti avec la caméra 360 qu'on peut acheter à part. Me semble qu'il est VR ready aussi.
OK, OK.
Fait qu'à ce niveau-là, c'est un très bon appareil de LG. Ils ont voulu vraiment stepper un, tu sais, ils ont voulu
monter en gamme.
Gamme. Samsung, malheureusement, avec la sortie du Note 7, ont dégringolé l'escalier assez
rapidement.
C'est plate, c'est parce que c'est un 30 ou 35 appareils qui a vraiment la batterie explosé, mais les médias en ont fait une histoire rocambolesque.
À toutes les sorties des iPhones, il y a toujours quelque chose aussi. Le Note 7, le problème, c'est qu'il partait en feu tout seul. Là.
Conception dans la batterie, d'un couche de la batterie, il y avait un minéraux étranger.
Okay.
Puis ça faisait en sorte que avec la chaleur, bien,
ça a explosé.
Sinon, dans les autres modèles, je sais que Motorola vient de sortir le Droid Max, quelque chose comme ça. J'ai vu les annonces. Malheureusement, je ne l'ai pas testé.
Pas essayé, OK.
Sinon, il y a le Google Pixie aussi, Pixel.
Ah, le Pixel, ouais. Ouais, OK.
Que j'ai vu les annonces, mais tu sais, moi, j'ai peur. Veux pas, faut que j'attende que le monde brise leur téléphone avant de les essayer.
Est-ce que, purement geek comme question, est-ce que tu penses qu'un téléphone Android au même prix qu'un iPhone, ça va marcher? Parce qu'il est excessivement cher, là. Ils ont vraiment à côté les mêmes gammes de prix que les iPhones.
Ouais.
Moi, personnellement, j'ai toujours pour mon dire, acheter un Android, ben oui, si ça vaut un peu moins, parce que il me semble, puis là, tu veux pas me répondre, au niveau de durabilité, c'est moins bon. Ça se peut-tu ou je suis complètement fan Apple, les yeux...
Ben en fait, ça sera pas parce qu'il y a Android dedans qui va être moins durable.
Ouais, t'as raison.
Ça va vraiment être le fabricant.
OK.
Je vous dirais, Samsung, c'est vraiment, d'après moi, le top leader dans l'Android.
Puis qualité fabrication égale à Apple, même que tu dis qu'Apple utilise des composants pour réparer, donc moins fiable. Samsung, c'est meilleur au niveau qualité fabrication?
Au niveau de l'écran, sérieusement, ça, c'est chapeau à Samsung. C'est des écrans AMOLED. Niveau de qualité d'écran, écouter un vidéo 4K là-dessus, c'est incroyable.
On voit la différence.
J'ai eu un Samsung Note 5, ça a été un très bon appareil. Seule chose que j'ai trouvé plate, c'est en direct les Samsung avec les batteries scellées. Après un an, la batterie...
Elle tient plus sa charge.
Elle veut plus rien savoir. Puis, temps de commander la batterie, de recevoir ma batterie, ben, je
tombais
à iPhone. Mais, tu sais, j'ai comparé l'iPhone 7 versus mon vieux Note 5, niveau qualité d'écran, puis c'est comme comparer les premières télés HD qui était du 720p à une télé 4K, c'est...
OK, c'est pas comparable.
C'est pas comparable. Fait que tu veux pas Samsung et Android, on a comme un peu plus pour notre argent, on paye moins un peu pour le branding que Apple. C'est sûr qu'Apple, par exemple, c'est plus friendly user, quelqu'un qui est pas habile en informatique, tu sais, téléphone, message, tu sais, c'est quand même assez simple. Android aussi, mais l'Android va avoir plus d'options, tu sais, on va pouvoir faire plus d'affaires avec l'appareil que l'iPhone. Va toujours rester comme figé, tu sais, on peut pas downloader des turd apps.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, oui,
ça.
On peut
laisser fermé.
Mais tu sais, c'est
mais là, tu perds ta garantie.
C'est ça.
OK, bon. En terminant, j'ai vu aussi sur ton site que tu fais de la personnalisation de téléphone.
Ouais.
Tu peux mettre des couleurs sur des iPhones.
Oui, Dans le fond, on remplace les châssis de téléphone.
OK, le métal autour là, qui l'entoure. Là,
ouais. Ouais, Apple le font dans le or, rose gold, noir, etc.
Et puis toi, là, t'as décidé que tu bypassais Tim Cook, puis là, t'as inventé des nouvelles couleurs pour les
iPhones. Ben, c'est pas moi qui ai inventé. C'est des pièces qui sont disponibles de Chine. Seule chose, par exemple, c'est quelqu'un qui veut faire ce genre de manipulation, c'est expert level. Pourquoi? Parce qu'il faut démonter le téléphone
au complet. Complet,
là. C'est tous les petits connecteurs de power, tout ça, c'est tous des petits filets quand même assez minces qui peuvent casser facilement. Fait que c'est, on repart de zéro. On l'offre souvent à des clients qui arrivent, exemple, le téléphone a passé en dessous d'un autobus. On fait des tests, l'écran fonctionne, la carte mère fonctionne encore, mais t'sais, l'écran t'a remplacé, le châssis t'a remplacé.
Fait que tant qu'à remplacer le châssis, on va en mettre une couleur.
C'est ça, souvent on le propose, parce que c'est moins dispendieux que c'est pas des pièces originales. Mais ça, je suis capable d'avoir aussi les frames originales à Apple, la seule chose, c'est que
plus cher.
C'est plus cher. Puis tu veux pas que ça reste que c'est de l'aluminium à la base, t'sais, c'est du fer. T'sais, c'est pas une composante... c'est qu'il va jouer sa rapidité puis
non c'est ça c'est pas un écran la qualité de l'écran
c'est ou de l'esthétique fait que ça je suis à l'aise de pas mettre une pièce originale c'est pour un frame
okay.
Mais pour tout ce qui est le reste les écrans les connecteurs de charge j'aime mieux utiliser l'original.
Alors Pierre-Alexandre, je te remercie beaucoup pour l'entrevue puis ben si on veut te contacter on fait comment?
Ben c'est simple, on a notre page Facebook, vous pouvez taper Télution, sinon on a notre site web télution.com. Puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de renseignements, vous pouvez nous envoyer des courriels, info@commercialtelution.com ou...
Service rapide, je vous le garantis. Alors, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine chicane, à la prochaine réparation.
Ouais, c'est bon.
Alors Gontran, toi, est-ce que ça t'a rappelé le bon vieux temps des réparations d'appareils?
Oui, exactement, oui. Parce que j'étais exactement dans le même genre de société, sauf que moi où j'étais, on faisait à la base c'était une entreprise de vente de pièces détachées, tout ce qui est ouais. Produit Apple, qui ensuite a fait les réparations, mais ordinateur et téléphone. Et maintenant ils font aussi un petit peu de Samsung, mais donc oui, j'ai vu. Je me suis un peu retrouvé dans ce qu'il disait Pierre-Alexandre. Ouais.
Et puis vous avez des bons trucs au niveau de vos batteries, de comment les charger, au niveau de l'eau dans les appareils. Hein. Étonnamment, les appareils résistent quand même relativement tous assez bien à l'eau. Il suffit de bien faire les choses et d'aller voir un réparateur.
Oui, voilà.
Même si votre iPhone est pas fait pour aller dans l'eau, s'il tombe dans l'eau puis qu'il est bien réparé, ça va fonctionner très très bien parce qu'ils ont des mesures d'urgence dans ces appareils-là maintenant. Le mythe du riz aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Et puis, c'est ça, c'était intéressant puis je trouvais que c'était assez utile par rapport à la communauté.
Oui. Et ce que je voulais dire aussi par rapport aux pièces Apple,
ouais,
c'est que en fait, en gros, les écrans originaux, ça n'existe pas. En fait, parce que Apple ne vend pas de pièces détachées de ses iPhones. Donc, toutes les pièces qu'on trouve d'iPhone, c'est soit des pièces qui ont été sorties des usines plus ou moins légalement, ou des entreprises qui ont copié les pièces. Donc, il faut faire vachement attention sur les écrans notamment, parce qu'il y en a qui proposent des écrans qui sont certes pas chers, mais vraiment de mauvaise qualité. Donc il faut faire très attention là-dessus.
C'est un peu ce qu'il disait, hein, faire appel à des professionnels, parce que quand on essaye de s'improviser réparateur, des fois il y a des mauvaises aventures.
Ouais, et puis le faire soi-même, surtout sur les iPhones, enfin ou sur les téléphones en général, comme c'est des petites pièces très fragiles, on peut vite arracher des composants sur les cartes mères, et donc on est bon pour changer le téléphone. Hein, donc,
Ouais, surtout si t'as pas le bon cruciforme puis que tu y vois avec un pointe de couteau, là, c'est pas l'idéal.
Non, non.
Ça fait le tour un peu de l'émission, une longue émission, d'à peu près 2 heures, pas loin de 2 heures. Je pense que ça va être la plus longue que j'ai fait au niveau de l'éclectique. La partie inspiration, Gontran, tu nous as apporté quelque chose au niveau de l'inspiration.
Oui, alors, vite fait, j'ai publié un petit article sur Medium. En fait, c'est pas vraiment un article, c'est des liens vers d'autres articles. Donc sur le thème de Noël et sur le comment voir un peu comment dire comment simplifier un peu Noël et prendre un peu de recul sur nos dépenses tu sais parce qu'à Noël on a tendance à se gaver de cadeaux
on n'a pas besoin
oui voilà
c'est pas utile.
On a besoin donc comme tu disais en avez-vous vraiment besoin donc voilà ça vous inspire un peu là-dessus.
Ouais, tu fais référence à un livre de Pierre-Yves McSween qui a sorti dernièrement un titre accrocheur, mais qui fait quand même réfléchir sur nos notre consommation. Ça s'appelle En avez-vous vraiment besoin? En avez-vous vraiment besoin? C'est ça. En avez-vous vraiment besoin? Et puis il y a plusieurs trucs pour réfléchir, pour économiser aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées au Québec, hein, qui sont purement canadiennes. Mais pour le reste, il y a des bonnes pratiques qu'on avait, que nos grands-parents avaient, qu'on a pu, je sais pas pourquoi, qu'on a décidé qu'on arrêtait. Nous, on consommait. On consomme, nous, notre génération.
Et puis, pour résumer, c'est privilégier les expériences aux biens matériels.
Ouais. Ouais, exactement. Exactement. Tu sais, pour la blague, à chaque année, moi, le cadeau de Noël de ma mère, c'est de passer une journée avec, aller au restaurant tout seul avec. Mm. C'est le genre d'expérience qui ne s'achète pas, ouais. Même avec une carte Visa.
Oui, voilà. Nous aussi, on fait souvent sur le cadeau. On offre un resto à nos parents, sur des choses.
Très bien. Écoute, merci Gontran à toi. Si les gens veulent continuer à échanger ou si tu veux des partenariats pour ton entreprise, des gens qui voudraient financer ta nouvelle entreprise, ta start-up, pas ta start-up, mais ta nouvelle entreprise, ou comment ils peuvent faire pour te rejoindre? Le meilleur moyen?
Alors,
le
meilleur moyen à titre personnel, c'est @glxgontran, tout attaché sur Twitter, Instagram, etc. Et à titre professionnel, c'est @gontranforme, tout attaché.
Merveilleux. Et quant à moi, ben, si vous êtes là, c'est vous savez où me rejoindre, mais typiquement, si vous voulez savoir où je sévis ailleurs, vous avez juste à aller sur profduweb.com. On vous souhaite une bonne année 2017, parce que la prochaine émission sera en janvier, sera l'année prochaine. On vous souhaite de très bonnes fêtes. On vous souhaite de surtout fermer vos cellulaires quand vous allez être avec votre famille. Profitez du moment, c'est ça qui est important.
Profitez des gens.
On vous dit de faire attention si vous buvez et si vous prenez la route. Incidemment, faites attention aux éthylomètres qui sont vendus en vente libre. Il y en a aucun qui fonctionne. Ne vous fiez pas à ça.
Ça.
Ben en fait, il y a une étude qui est sortie, un banc d'essai ici au Québec qui les a essayés et qui conclut que aucun n'est fonctionnel. Alors n'achetez pas ça pour croire ou en tout cas pour penser que vous êtes en sécurité quand vous allez souffler là-dedans. Ça ne donne pas la bonne quantité et au pire, ça vous laisse croire que vous êtes correct pour conduire alors que vous ne l'êtes pas. On vous souhaite une très bonne année, un bon temps des fêtes et on se retrouve en 2007. Allez, ciao, ciao, bye bye.
Ciao, à bientôt.
Le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un train pour Alain, un foulard pour Édouard. Une poupée pour Mireille, des patins pour le petit Corbeil. Oh, hey! Papa, le papi, le popo, le pépu, le papère Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros parka. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Des gants pour Fernand, un bréviaire pour Rosaire. Des pop pour Noël, un beau gars pour Gloria. Alléluia. Le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses bas de laine, pis son gros paca. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelle, rempli de joie. Un chapeau pour Bruno, une fille chaude pour Jean-Claude. Une paire de claques pour Claf, des amis pour Larry. Ah ouais! Père Noël, apporte des bébelles. J'en ai eu, j'en veux plus, swing les têtes en rue. Père Noël, apporte des bébelles. J'en ai eu, j'en veux plus.
Faut tous les dons, tout dans le... plutôt dans le... Ah, puis finalement, maintenant, tout ça, voyons, c'est quoi le sinon, là, ça fait là, non? Ça m'échappe. Alors, j'ai le bout de la langue. Ah, joyeux Noël!